Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzl, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 103, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Éric Le Blacher, ex-cycliste pro reconverti dans l'ultra à pied et à vélo. Parler avec Éric, c'est se souvenir de la tirade de Edouard Baird dans Mission Cléopâtre. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Eh bien Éric, c'est exactement cela. Une passion et un enthousiasme légèrement débordants. La preuve.
Je pense que dans la vie, le plus important, c'est de savoir s'adapter, d'aimer les gens et de partager. Voilà, ça, c'est important. Et puis après, les gars, faut rire, faut vous marrer, faut être un peu foufou. Tu vois, le côté un peu foufou, il faut faire ça.
Le côté franchement foufou et passionné est apparu dès le début lorsqu'Éric explique comment concilier vie professionnelle, vie de famille et pratique sportive. Et plus loin, il a peut-être un peu disjoncté lorsque nous avons abordé les travers de l'ultra et les multiples dangers qui guettent cette forme de vélo.
Mais j'ai appris l'année dernière, que sur une épreuve d'ultra longue distance, t'as un mec qui a pris le train, quoi. Il a pris le train entre deux pointages. Non, mais s'il te plaît, quoi. Non, mais t'imagines le mec dans la tête du mec. Mais dans la tête du mec, le mec il prend un ticket de train, quoi. Il prend un ticket de train, il a un dossard dans le dos.
Vous l'avez compris, encore un épisode haut en couleur où nous revenons sur son parcours de cycliste pro, son choix volontaire d'arrêter sa carrière, ses débuts en course à pied qui l'amèneront vers l'UTMB ou le Marathon des Sables, et enfin le passage vers l'ultra à vélo. Notez que pendant les 5 premières minutes, le son est un petit peu bizarre, Éric avait tendance à souffler dans son micro, il l'a éloigné, et ensuite tout va bien. N'oubliez pas de vous abonner à la géniale newsletter pour avoir plein d'infos sur le gravel, le bikepacking, la longue distance, le tout-terrain et le vélo en général. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode et sans plus attendre, donc, Éric Le Blacher.
Et là, est-ce que tu m'entends ?
Ouais, je t'entends toujours.
Bon, bah super. Eh, comment ça va ?
Ça va bien, fraîchement. Tu vois, je me suis entraîné ce matin, je suis parti de bonne heure, donc j'ai pris un bon bol d'air.
Ouais, t'as fait combien?
J'ai fait 3 heures, je suis parti, il était 5h15.
Ouais.
Et il faisait moins 9.
Ouais.
Et voilà, mais en fait, c'est pas extraordinaire. Enfin, tu vois, ça paraît de ouf comme ça. Mon père m'envoie un message tout à l'heure. Il me dit, mais comment tu fais et tout? C'est pas sérieux. Mais en fait, j'ai froid nulle part. Tu sais, je pense que si t'as les bons vêtements, j'ai pas froid aux pieds, j'ai pas froid aux mains, j'ai pas froid aux jambes, j'ai pas froid au corps. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir au final? À part te dire que c'est pas la norme, le reste, y a rien. Donc j'étais tranquille, c'était pas glissant sur la route. Voilà quoi. Juste au début, tu vois, quand la première demi-heure, il fait tellement froid que ton cerveau il est un petit peu ralenti. Tu sais, t'as déjà connu ça, je pense. Et donc il faut le temps que le cerveau s'habitue à être par des températures un peu polaires, quoi.
Ouais. Bon, à moins 9, c'est pas polaire encore, donc ça.
Oui, enfin du moins inhabituel pour la région parisienne, quoi.
Oui, pour nos régions. Mais pourquoi tu prépares quoi de tellement important pour aller rouler la nuit? Ou parce que tu...
Alors tu vois, c'est une question intéressante que tu me poses. Parce que régulièrement on me la pose. On me dit mais pourquoi tu roules la nuit? Mais tout simplement parce que je peux pas rouler le jour. parce que j'ai un métier comme tout à chacun qui commence vers 8h30, qui se termine vers 17h30 ou 18h. Et donc j'ai pas possibilité de rouler en journée, en fait c'est pas plus bête que ça. Donc quand je roule en journée, c'est parce que je m'adapte soit dans mon métier, soit je pose comme tout à chacun des jours peut-être pas, mais en tout cas des heures de récupération, des heures de congé. Mais autrement, sur une semaine classique, eh bien je pourrais me permettre de faire comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire de dire bah j'ai pas le temps de m'entraîner en fait. Parce que ne pas avoir le temps de s'entraîner, sans tomber dans le jugement, hein, c'est assez facile à prononcer au final, parce que quand t'as une journée de travail qui commence, et encore, hein, je veux dire, enfin, moi j'ai pas un métier, je fabrique pas des vaccins, hein, donc j'ai un métier tout à fait classique en termes d'horaire, mais malgré tout, le cyclisme nécessite, je vois la différence quand je fais la course à pied, quand je fais du vélo, quoi. Il faut quelques heures pour faire du vélo. En journée, je les ai pas. Ces heures-là et le soir, j'avoue que c'est pas toujours évident sur les mois d'hiver et d'automne parce qu'il fait nuit de plus bonne heure. Et bon, après c'est mon expérience personnelle. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard, mais j'essaie quand même de conjuguer un petit peu tous les piliers de ma vie et je trouve que c'est un peu plus toxique pour ma famille de m'absenter le soir et de rentrer à 22h plutôt que de mettre mon réveil et de me lever et de finalement de ne pas trop prendre le pas sur le pilier familial, quoi. Voilà. Donc c'est le compromis idéal, mais aussi parce que j'ai pas forcément le choix si je veux faire un certain nombre de kilomètres, quoi. Voilà.
Bon, ok, tu essayes de ménager ta femme, tes enfants et tout en évitant de partir le soir, mais tu vas pas me mentir, ça te plaît aussi de partir à 5h30, puis là t'es parti à 5h30, t'as fait que 3h. Il y a 2 semaines quand on s'est parlé, t'en avais fait 4 et t'étais à 11h du mat, t'étais encore complètement hilar. Ça te plaît aussi?
Oui, il y a un côté un peu grisant quand même. Moi j'aime la nuit, j'ai toujours dit je préfère la nuit au jour. Le problème, c'est que la nuit, il faut dormir. Donc, autrement, je pense que je pourrais être de ceux qui vivent la nuit. Je trouve plus jolie la nuit. Je trouve que la nuit amène à l'évasion. La nuit est calme. La nuit m'apaise. J'aime beaucoup la nuit. Sur des épreuves d'ultra longue distance, aussi bien à pied qu'à vélo, j'adore la nuit, quoi. Donc oui, bien sûr, ça me plaît aussi de m'entraîner la nuit. Et puis, tu sais, à force, tu réduis ta perception. Et donc, j'ai pas besoin de beaucoup de lumière pour voir clair, en fait. Donc, j'ai ma lampe, j'ai mes yeux, un peu de pression. Et puis, et j'aime bien. Ouais. J'aime bien, mais je mets quand même en avant le caractère un peu essentiel de m'entraîner de nuit si je veux accumuler des heures d'entraînement, parce que bah voilà, en fait c'est à un moment, il faut trouver du temps, comme tout le monde, hein, il faut trouver du temps. Nos journées, elles font tous 24 heures, donc ça, on n'a pas le choix. Avoir un métier, on n'a pas le choix. Après, si tu veux ajouter certains piliers de ta vie et les considérer comme essentiels, tu les ajoutes, et à partir de là, tu regardes le temps qui te reste. Et tu t'aperçois que si tu commences à faire des nuits de 8, 9 heures, si tu commences à, ça va pas le faire. Donc, ben voilà, en fait, c'est venu un peu à moi naturellement. Et puis après, on s'adapte et on trouve ça joli. Et puis maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup m'entraîner des nuits. Ouais. J'aime faire du vélo la nuit.
En plus, c'est relativement pratique parce que bon, tu l'as un petit peu dévoilé, mais tu t'es orienté maintenant vers l'ultra à pied ou à vélo, et c'est quand même important aussi d'arriver la nuit et d'avoir des repères et de se sentir à l'aise dans un environnement différent. Et la nuit, tout est différent, et encore sur la route évidemment, dans les chemins à pied, mais dans les chemins à vélo, c'est encore plus différent. Donc c'est aussi important de se sentir à l'aise dans cet environnement.
Oui, tout à fait, tu as raison, Richard. Par rapport d'abord au regard, donc à la perception, ensuite la vitesse, parce que quand tu descends à 50 km/h de nuit, forcément tu ne maîtrises pas tous les paramètres comme tu les maîtrises de jour. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas que tu pries le bon Dieu, mais Il y a un peu de ça en fait, hein. Et pas plus tard que ce matin, j'ai pris une descente rien d'extraordinaire. Je sais pas, peut-être j'étais à 45 km/h et j'ai un sanglier qui a déboulé à 50 mètres de moi. Et en fait, je l'ai pas vu arriver. Et je pense que deux jours, je l'aurais vu courir dans le champ. J'aurais pu anticiper.
Ah oui.
Donc de nuit, c'est quand même plus risqué. Mais justement, il faut s'habituer à ça. Alors, lorsque tu choisis de pratiquer après en ultra longue distance, hein. Et alors, tu as cette sensation de vitesse, ton physique, donc il faut t'habituer tout de suite à l'effort de nuit. Il faut être capable de produire un effort de nuit. Des fois, tu as des gens qui te disent, bah moi, tant que j'ai pas pris un petit déjeuner, je suis pas opérationnel. On entend ça parfois. Moi, je me lève, je pars m'entraîner, je m'entraîne toujours à jeun. Je pars toujours à jeun, pardon. Je mange sur mon vélo. Pourquoi ? Parce que je me lève, ce matin je me lève, il est 4h30, 5h moins le quart. Je vais pas commencer à allumer la lumière, enfin à mettre le bazar dans la maison, ouais. Prendre le petit-déj, enfin ouais. Donc je pars toujours à jeun et je mange toujours. Moi je fais partie de ceux qui mangent bien à l'entraînement. Donc je mange assez rapidement mes barres de céréales.
Ouais.
Donc ça aussi il faut s'habituer à l'alimentation de nuit. Et puis après, il faut s'habituer aussi à la capacité d'analyse, la capacité de réflexion, de concentration. Ce qu'on pourrait dire familièrement, faut pas avoir la gueule dans le sac, quoi. Voilà, faut pas avoir la tête dans le pâté quand tu montes sur ton vélo, quoi. Mais tout ça s'apprend en fait. Hein, c'est...
Ouais,
tout s'apprend. Hein. Tout ce qu'on travaille. Voilà, tout ce qu'on travaille, on progresse, et tout ce qu'on travaille pas, on régresse ou on stagne.
En plus, croiser un sanglier, bon, c'est quand même, enfin, un sanglier ou un autre petit animal mignon de la forêt, c'est quand même hyper agréable.
Oui, ça c'est vrai. Alors ça, c'est aussi une chance de s'entraîner la nuit. C'est les animaux, en effet, la faune et les levers de soleil.
Ouais.
Je suis un amoureux, abonné presque de levers de soleil. Et ce matin, je me suis arrêté peut-être 2-3 minutes et j'ai fait des levers de soleil. J'ai pris quelques photos du lever de soleil parce qu'il était magnifique en plus ce matin. Et j'adore les levers de soleil. Peut-être aussi parce qu'à force de m'entraîner de nuit, je les vois alors que beaucoup ne les voient pas encore.
T'es un mec romantique en fait.
Tu rigoles, mais des fois on me dit ça. Non, c'est vrai, tu rigoles, mais c'est vrai, des fois on me dit ça. En fait, je sais pas, enfin c'est... Un bonheur simple, tu vois, moi j'aime le bonheur simple en fait, et le lever de soleil, ouais, c'est un bonheur simple, c'est un bonheur gratuit, mais ça peut faire ma journée en tout cas, un lever de soleil, ouais, tout à fait. Ah bah.
Mais du coup, qui es-tu, Éric Le Blacher? Parce que là, ça fait 10 minutes qu'on déblatère, mais on ne sait toujours pas, enfin moi en tout cas je le sais un petit peu, mais qui es-tu, Éric Le Blacher?
Qui je suis alors
un grand romantique,
je suis un sportif amoureux de la vie, amoureux du simple, amoureux des gens et attiré par l'inconnu. Attiré par l'inconnu, attiré par le nouveau, alors dans la limite du raisonnable, mais par les choses nouvelles, par la vie en fait, par la vie en général. Donc on viendra peut-être à parler de la traduction de tout ça dans les faits, dans ma vie, mais voilà, c'est un petit peu ça. J'ai été coureur cycliste professionnel de septembre 2001 à fin 2006. Avant, j'ai été coureur amateur. J'ai participé au championnat du monde à Plouay en 2000 avec l'équipe de France. Donc, on était 5 sélectionnés en plus. Charteau, Vaucler, Inaudi, Lemével et moi. Donc, c'était une fierté d'être là. En plus, j'ai fait toute la première partie de course échappée. On était 4. Et donc, voilà, en France, ça reste un grand souvenir. J'étais dans l'équipe d'Aubervilliers et puis j'étais un petit peu suivi par l'équipe Crédit Agricole. Et donc, j'ai réussi à intégrer l'équipe Crédit Agricole comme stagiaire. Ensuite, j'ai intégré l'équipe GS3, c'est-à-dire on peut considérer que c'était un peu l'équipe réserve du Crédit Agricole. Mais c'était quand même déjà un statut professionnel. Et puis, je suis resté dans l'équipe Crédit Agricole 4 années, jusque fin 2005. fin 2005, j'ai pas été conservé par le Crédit Agricole. Bon, en fait, par manque de résultats, alors que je m'étais cassé deux fois la clavicule dans l'année, et j'estimais que j'avais quand même fait un peu, j'avais quand même fait le nécessaire. J'avais fait deux d'une étape autour d'Autriche, j'avais fait pas mal de résultats, mais tu sais, chez les professionnels, professionnel, c'est un métier. C'est un métier, donc qui dit métier dit entreprise, dit patron, dit logique d'entreprise, autrement dit des choses qui nous dépassent. Donc je pense que cette année-là, j'ai pas été conservé parce que fallait faire la place pour d'autres qui étaient soit imposés, soit qui avaient une valeur économique ou marchande qui faisait que je pouvais pas lutter quoi. Donc j'ai été sorti du décor comme ça, fin 2005, j'étais presque foutu, enfin j'y croyais pas trop. Et puis j'ai quand même continué à faire le job en fait jusque la fin, je me suis dit bon, jusque les dernières courses, parce que Roger Leger a eu quand même la délicatesse et la gentillesse même de pas me mettre sur la touche, parce que tu sais, des fois, quand on te garde pas, non seulement on te garde pas, mais en plus, on te fait pas courir. Mmh. Donc là, t'es cuit. Moi, j'y cours jusqu'à la fin, et puis j'ai donné mon maximum sur des épreuves de Coupe de France, où on était leader par l'intermédiaire de Torushov. Et donc, j'ai été, j'ai fait le travail jusqu'au bout. Et puis, mi-octobre, j'ai eu un appel de Marc Madio qui m'a dit, t'es toujours à la recherche d'une équipe. J'ai dit, bah oui, j'ai rien du tout. Il m'a dit, bah, si tu veux, tu viens demain, tu signes un contrat. Ça s'est fait comme ça. Alors que je pensais que j'étais cuit, en fait. Et donc, j'ai signé un contrat dans l'équipe de la Française des Jeux. Et puis, 15 jours après, j'étais parti en stage, quoi. Voilà, c'est une belle histoire pour moi. Ensuite, j'ai arrêté fin 2006 ma carrière professionnelle volontairement. On me proposait un contrat. Marc me proposait un contrat de 2 ans. Il me doublait mon salaire et il m'avait intégré la participation au Tour de France parce que j'avais fait une bonne année. J'avais gagné à Bessèges, j'avais fait des bons résultats avec la Française des Jeux. Et j'ai pas voulu continuer parce que j'ai voulu donner un nouveau sens à ma vie. En fait, j'avais l'impression que professionnel c'était bien, mais que j'étais en train de mettre beaucoup de billes en fait là-dedans. Mmh. Et que peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans j'allais me rendre compte que j'avais fait un peu trop d'années chez les pros et au détriment d'autres choses. Donc je me suis dit bon, t'as été 5 ans chez les pros, 5, 7, 9, 11, 13, ça s'appelle avoir été pro tout simplement à l'aube de ton dernier jour de vie. Donc je me suis dit bon, il y a plein d'autres trucs que tu voudrais faire dans la vie. La reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, t'as un enfant, tu le vois un jour sur deux. Parce que quand t'es pro, tu pars de chez toi en moyenne un jour sur deux. Donc voilà, faut pas mésestimer quand même. Faut pas mésestimer ta famille, ta femme. Voilà, bon, tout ça a un petit peu pesé dans ma réflexion. J'en ai beaucoup parlé avec ma femme, bien sûr, et à contre-courant parce que ça ne se faisait pas du tout. Même à contre-courant de mes supporters, de ma famille, quoi. J'ai appelé Marc mi-août et j'ai dit Marc, faut qu'on se voit. Il m'a dit OK, passe au bureau. J'ai dit voilà Marc, je veux plus être professionnel. Je lui ai expliqué pourquoi. Oui, on a bu le champagne. Il m'a dit écoute, t'es le premier mec qui me refuse un contrat. Et Marc encore s'amuse à dire parfois, le seul mec qui m'a refusé un contrat, c'est Éric Le Blacher. J'ai jamais eu de regret. Si c'est la question suivante, j'ai jamais regretté. Voilà. Non, et ensuite, bah, je suis devenu j'ai trouvé un emploi, j'ai intégré la ville de Meaux grâce à la confiance qui m'a été accordée alors que j'avais aucune expérience. Et puis je me suis lancé dans le sport différemment parce que j'étais amoureux de sport. Moi, j'ai toujours considéré qu'être professionnel, pour moi en tout cas, hein, moi être coureur cycliste professionnel, c'était une catégorie en fait. C'était mon niveau physique me permettait d'être un coureur cycliste professionnel. Mais j'ai jamais considéré ça comme un métier, à tort ou à raison. À tort parce que sans doute j'aurais pu gagner plus d'argent, bien sûr, ça je m'estime pas et je suis comme tout le monde, je vis pas d'amour et d'eau fraîche. Mais pour moi ça fait pas mon bonheur. Voilà. Moi j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. J'avais pas besoin de ça en fait. Je voulais juste être heureux dans la vie, juste ça en fait, juste ça. J'ai ni besoin d'argent, ni besoin de plein de trucs. Je m'en fous d'avoir une belle voiture et tout, ça me rend pas plus heureux. Je voulais juste ça et j'avais l'impression que peut-être un jour j'allais être moins heureux dans la vie parce que j'avais voulu faire 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus chez les pros. Donc voilà, je me suis tourné vers le sport et j'ai fait depuis 1000 choses dans le sport et j'ai jamais regretté de ne pas avoir été coureur cycliste professionnel plus d'années encore. Voilà. Eh belle mon histoire. Hein.
J'ai les larmes aux yeux, c'est pour ça que je ne parle pas en fait, parce que je suis en train de sangloter. Donc...
Ah non, mais pourquoi ? Parce que j'y crois en fait. Enfin, voilà,
t'as pas à justifier, mon petit Eric.
Voilà. Non, mais j'y crois en fait. Non, mais je veux dire par là que je suis content d'avoir fait ça. Pas fier, parce que j'ai pas de fierté. Mais je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir été au bout de mon idée et de voilà d'avoir été un peu à contre-courant et ça m'avait valu pour la petite anecdote une pleine page couleur dans le journal L'Équipe un article qui s'appelait Décrocher volontaire parce que le journal L'Équipe avait dit ben comment ça se fait on était venu me voir comment ça se fait c'est le dopage vous en avez marre du dopage machin et tout j'ai dit non pas du tout c'est pas du tout ça et donc voilà les gens se sont un peu intéressés à moi parce que ça se faisait pas, mais en fait, ça se faisait pas jusqu'au moment où on le fait. Hein. C'est un petit peu comme tout dans la vie.
Bah puis là, ça se multiplie un petit peu. On le voit ces derniers, depuis, déjà ces dernières semaines, on l'a vu. Et puis on a eu la confirmation hier. Enfin, tu vois entre comment il s'appelle le mec qui a arrêté il y a deux semaines, là, deux trois semaines en plein stage à Majorque. Mince.
Dumoulin.
Ouais, Tom Dumoulin qui arrête, qui met ça sur pause. L'Allemand qui a arrêté il y a deux ans.
Kittel.
Marcel Kittel. Hier, la longue interview dans L'Équipe de Thibaut Pinot où il dit qu'il pense souvent à arrêter le vélo. Enfin, t'imagines, peut-être que tu vas te faire détrôner par Thibaut, imagine. Il reprend pas. Tu seras rayé des palmarès, mince.
Mais tu sais, j'aime beaucoup ce type-là, et je trouve qu'il a un côté, pas fait pour le métier en fait. Il rentre pas dans la case. Il rentre pas dans la case. C'est pas ça normalement. Coureur cycliste, c'est pas être Thibaut Pinot. Et en fait, il me plaît beaucoup ce gars parce que son interview est très belle d'ailleurs dans L'Équipe d'hier ou avant-hier, mais aussi parce que j'adore par exemple le suivre sur Strava parce que pendant l'été il part rouler, il est 6h30 par exemple, 7h moins le quart, mais c'est lunaire pour un professionnel comme Thibaut Pinot quoi. C'est juste lunaire. Je l'ai croisé au mois d'août dans les Vosges, donc j'étais en vacances là-bas et je m'entraînais. Et donc bon, je le vois au loin, tout. Bon, bref, voilà, j'arrive à le récupérer. Je me présente, pour pas trop l'importuner.
Donc du coup, essoufflé.
Salut. Ouais, je te raconte l'anecdote. Oui, non, parce que elle pourrait faire flamby, mais j'étais en train d'appeler ma femme, et donc j'étais arrêté sur la route, et hop, il me double. Et je le reconnais. Je dis attends, je te laisse. Donc elle a pas compris. Et donc je repars au sprint. Et lui, il se retourne. Et il a dû voir un bébert qui lui courait après, quoi, tu vois, qui roulait derrière lui. Et donc, il s'est amusé à essayer de me lâcher. Tu vois, il s'est dû se dire, ça va me faire une intensité. Et sauf que moi, je me suis mis à la mort. Je me suis dit, je peux pas rater cette occasion-là, quoi. Et donc, ça a duré 10 bornes, hein, l'histoire. Et puis, à un moment, à un carrefour, il a été gêné par la circulation et je suis rentré sur lui. Voilà. Non, donc, bref, on s'est un peu.
Jean-Michel, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Jean-Michel rattrape les pros.
J'ai pas lâché. Et là, je me suis dit non. Puis après, c'était ma fierté. Je me suis dit, il va pas m'épailler quand même. Et donc, on a discuté un petit peu ensemble et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, j'ai eu la confirmation que c'était quelqu'un qui était un peu à la marge, en fait, qui était, qui est un passionné de vélo pour le vélo, quoi. Voilà, il avait dans ses poches des nuts. Il faisait un ravito aux nuts. Enfin, rien que ça m'a semblé lunaire, quoi. Il me dit, avant, t'en veux un bout? Je regarde, il est des nuts. Je lui dis, waouh, Thibaut Pinot, quoi.
Ouais.
Un amoureux de la vie, je pense aussi.
Et des chèvres, et de la pêche.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais en fait, c'est un peu symbolique, tu vois. Enfin, je pense que c'est un peu symbolique, quoi.
Et toi, quand tu as senti que t'étais presque fini avant, donc quand le crédit ne t'a pas conservé, qu'est-ce qui te passait par la tête? Bon, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là?
Oui, quand t'es coureur cycliste professionnel, t'es dans une bulle qui est terrible en vérité. Dont tu ne prends connaissance bien souvent que lorsqu'elle se perce, mais tu es dans une bulle terrible, une bulle où on te monte ta valise, où on te prépare et on te touille tes cornflakes le matin au petit-déj. On te lave ton linge, tu arrives le soir, ton linge il est posé sur le lit. Bref, c'est de l'assistanat puissance 1000 en fait. Hein. Donc t'es complètement déconnecté de la réalité. Donc lorsque ça s'arrête, au tout début j'ai été un petit peu pris de, enfin lorsque on m'a dit que j'étais pas conservé, j'ai été un peu pris de panique quand même, parce que tu te dis qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et puis j'étais aussi un petit peu. C'est toujours un aveu d'échec quand même lorsqu'on te dit bah on te conserve pas parce que t'es pas assez fort. Voilà, en l'occurrence c'était pas vraiment ça en fait, parce que moi j'étais pas un grand coureur, mais je veux dire j'ai quand même défendu quand même mon casse-croûte pendant toutes ces années là, mais voilà, ça répondait à d'autres logiques, il y avait d'autres leaders qui arrivaient et fallait faire la place à d'autres coureurs quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas été conservé. Et tu te demandes ce que tu vas faire plus tard, et puis les exemples sont nombreux de coureurs qui derrière ont eu une période pas si simple, une période la reconversion bien sûr, mais aussi la vie de famille, le divorce, le tout ça hein, bien sûr. C'est il y a pas de finalité, c'est pas écrit. Et puis moi je ne revendique pas être non plus un, je suis pas un modèle de vie de famille, hein, je ne revendique pas ça du tout, mais les exemples sont nombreux quand même de personnes qui à un moment décrochent dans leur vie de famille parce que la paroi elle est trop épaisse dans le monde professionnel. Alors on te dit ouais mais tu sais c'est ça, c'est les pros, regarde dans le football et tout. Mais la grande différence c'est que dans le football, si t'es pas trop idiot, lorsque t'as fini ta carrière, t'as au moins payé ta maison. Je veux dire, t'as au moins payé ta maison et t'as quand même des ronds de côté quoi. Lorsque t'as fini ta carrière de coureur cycliste, t'as touché 5000 euros par an pendant 4 ans ou 5 ans. Mais quand
par
ça
mois,
s'arrête
par mois.
Oui, par mois, pardon. Ah. Oui, c'est ça, par mois pendant 3 ou 4 ans. Lorsque 4 ans ou même 5 ans. Lorsque ça s'arrête, t'as pas fini de payer ta maison avec ça. Et lorsque t'arrives dans le milieu professionnel, dans la vraie vie, comme on s'appelle à dire la vraie vie, tu vas voir un patron. Tu dis vous avez quoi comme expérience professionnelle? Bah tu dis j'étais coureur cycliste professionnel. Le gars va dire oui, et donc, et après vous avez fait quoi d'autre? Bah j'ai fait que ça. Et bah ouais, bah, t'as fait que ça. Et moi je voulais pas devenir directeur sportif, j'avais envie de tomber dans la vie un peu classique, je dirais. J'avais non pas par dégoût, pas du tout, parce que je suis un fin fou de vélo, mais je voulais autre chose. Et en fait, tu t'aperçois que t'as pas le temps de diplôme, de tout ça. Quand j'entends des fois, ouais, mais pourquoi les gars, vous faites pas des formations, vous faites pas. Mais quand t'es chez les pros, Richard, t'as pas le temps en vérité. T'as pas le temps parce que t'es parti de chez toi un jour sur deux. Parce que lorsque tu fais 5 heures de vélo, tu rentres. En vérité, t'es désossé quoi. T'es désossé. T'as juste envie de te reposer. Et te reposer, ça fait partie du taf. Ça fait partie du boulot. Tu veux une anecdote? Je vais t'en donner une. J'étais à la Française des Jeux un jour. À la Française des Jeux, je sais plus combien d'heures d'entraînement j'avais fait dans ma journée, bref. Frédéric Grapp, tu sais, l'entraîneur.
Oh là,
de Groupama FDJ, m'appelle et j'étais en train de faire mes courses à Leclerc. Il m'appelle et il dit, tu es où là? J'ai dit, je suis en train de faire mes courses à Leclerc. Ah, il me dit, écoute, ouais, c'est pas super, la récupération et tout. Et là, je me suis dit, waouh, quoi. Ouais, mais en fait, je suis comme tout le monde, quoi. Enfin, ouais, mais c'est pas ma femme qui va faire les courses aussi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as pas le temps, en fait. T'es déconnecté total. C'est trop dur, le cyclisme. C'est un sport qui est trop difficile pour le faire à moitié. Donc, lorsque ça s'arrête, c'est compliqué. La reconversion, pour un coureur cycliste, elle est difficile. Et je pense pas qu'elle ait beaucoup évolué. Déjà parce que le marché du travail, on peut pas dire qu'il soit plus florissant qu'avant. Mais, parce que c'est compliqué. Alors, c'est un rêve. Il faut le vivre, bien sûr qu'il faut le vivre à fond les ballons, mais c'est compliqué. Et lorsque je vois des coureurs dans l'équipe Saint-Michel Aubert, par exemple, ils ont en vérité les mêmes sacrifices que l'équipe Groupama FDJ, parce qu'il n'y a pas à tortiller. Pour être fort, il faut faire des heures. Pour être fort, il faut se reposer. Pour être fort, il faut faire ceci. Pour être fort, il faut faire cela. Sauf que le salaire, il n'est pas tout à fait le même, sans leur faire injure, mais il n'est pas tout à fait le même. Et donc, waouh, quoi. Quand ça s'arrête, en plus, toi, t'étais. Alors, si moi j'étais loin d'avoir payé ma maison, eux encore plus loin, quoi. C'est l'envers du décor, comme on dit. Mais bon, c'est encore une fois, c'est génial et c'est génial. Et si c'est à refaire, bah, pff, je sais même pas comment je refais ça, bien sûr.
Tout à l'heure, tu m'as dit que ce bot était. Tu m'as dit ouais, c'est une jolie histoire et tout. Oui, c'est vrai. Que tu retires pas forcément de fierté de ça, mais quand même un petit peu. Est-ce que finalement, c'est pas aussi la fierté d'être allé au bout de ton idée et surtout de ne pas avoir fait ce qu'on attendait de toi, dans le sens où il y a certainement plein de coureurs qui ont envie d'arrêter parce que pour plein de raisons, mais qu'ils ne le font pas parce que leur entourage, leurs fans, tout le monde attend d'eux qu'ils soient coureurs pro. Et ils n'osent pas le faire pour ne pas choquer leur entourage. Et toi, tu l'as fait.
T'as sans doute raison. Et là, ça pousse plus loin dans la réflexion. Mais pour revenir à ma personne, je pense que j'aime bien être acteur. Être acteur de ma vie, c'est-à-dire décider un peu des choses. Avoir toujours l'impression, si tu veux, de... Je pense que dans la vie, ça, c'est essentiel. Si on a la possibilité, bien sûr. C'est de toujours avoir les ficelles pour tirer. J'aime faire beaucoup de choses, par exemple, dans la vie. J'aime faire beaucoup de choses. Mais à un moment, si je sens que je suis dépassé, que j'ai plus les ficelles, ça va plus. Ça veut dire il faut que je trie, il faut que je sélectionne. Et là, sans doute que je m'apercevais que j'étais plus acteur en fait de ma vie, qu'on allait décider pour moi de quand ça allait s'arrêter, qu'on allait décider pour moi de ce que cela allait induire dans ma vie, professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, et donc sans doute qu'à un moment ça a été moteur. Mais c'est un tenant que j'ai dans ma vie. Tu vois, par exemple aussi dans des actions, je m'investis bon dans des actions diverses autres que le sport, dans mes relations si amicales, mes amis, voilà, j'ai plusieurs groupes d'amis, je dirais différents, tu vois, qui viennent d'horizons différents. Mais je veux pas aller trop loin non plus, et à un moment ne plus être moi-même. En fait, j'ai besoin d'être moi-même. Je suis moi-même. Je suis pas tout à fait, je pense, un modèle standard. Je ne me juge pas, c'est-à-dire qu'il est mon modèle, il n'est pas meilleur, il n'est pas moins bien, mais je suis conscient de ne pas être tout à fait normal. Je ne suis pas tout à fait dans la norme. Et ça s'est traduit aussi à ce moment-là. Voilà.
Est-ce que ce choix d'aller vraiment d'être acteur de tes choix, c'est une des raisons pour laquelle tu t'es orienté vers l'ultra ? Alors que tu aurais plus facilement pu faire des épreuves de courte distance où c'est balisé, où il y a des ravitaux, il y a tout ce qu'il faut. Tandis qu'en ultra, c'est toi tout seul et tu prends tes propres décisions.
Ouais, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison. C'est l'inconnu m'attire. Tu vois, le côté... tu vois, des fois, je dis à ma femme, je dis cap ou pas cap. Eh ben, c'est un peu ça, tu vois. Ah ouais, je suis pas cap. Bah, tu vas voir si je suis pas cap. Bah, il y a un peu de ça, en fait. Le 10 km, 10 km, je sais faire. Le 20 km, je sais faire. Le marathon, je sais faire. Il y a un 100 km. Ça, je sais pas faire. Eh ben, justement, je vais m'inscrire sur ça, vu que je sais pas le faire. C'est un peu ça, ma logique. Et donc, rapidement, bon, j'ai vu que en course à pied, 10 km, marathon, semi-marathon, enfin non, pas le marathon, parce que le marathon, c'est quand même, ça cause dans le poste quand même un peu. Mais 10 km et semi-marathon, je me suis aperçu que je savais faire. Et je trouve moi la notion d'aventure. C'est pas aventureux au final. C'est qu'une histoire de chrono. Et au final. Tu sais, le 10 km que je vais, j'ai fait 32-01 en record, mais que je fasse 32-01, 31-28 ou 32-47, voilà, enfin honnêtement, ça s'appelle avoir fait un 10 km. Pour moi, ça s'appelle avoir fait ça. Donc, j'ai rapidement cherché ce qui pouvait à nouveau m'attirer, me donner de l'envie, en fait, de l'inconnu, du truc que je ne sais pas faire. Et donc je me suis lancé en 2013 dans mon premier ultra trail. J'ai choisi très simple, j'ai fait l'éco-trail de Paris Et le 80 km, bien sûr. Alors, tu vois, on revient à ça, en fait, parce que les contrats de Paris, t'as un 10, un 20, un 50 et un 80. Et moi, je me suis inscrit sur le 80, tout de suite. Et j'ai aimé, en fait, j'aime dans la longue distance, d'abord les phases différentes, l'histoire, parce qu'en fait, c'est un film, c'est une histoire, ça va plus, il t'arrive des choses, des galères. Tu es incapable d'annoncer le scénario de ton épreuve, alors que sur un 10 km, tu es capable de l'énoncer à l'avance. Et puis on s'attache pas à la performance pure. En fait, la performance, elle est déjà de le faire. Et ça, j'aime bien aussi parce que depuis que j'ai 7 ans, parce que j'ai pris ma première licence de vélo en 1985, donc j'avais 7 ans. Depuis 7 ans, je suis baigné quand même dans la place, dans la question. Alors, t'as fait combien? Et peut-être qu'à un certain moment de ma carrière, j'en ai eu assez qu'on me dise alors, t'as fait combien, quoi. Voilà.
Et l'éco-trail du, pardon. Donc, cet éco-trail de 80 km, ça s'est passé comment? T'as souffert le martyr ou tu t'es dépatouillé, décontracté?
Ah non, mais attends, j'ai été nul, mais non, mais là, c'est bien parce que je ne me suis pas rendu compte. Je me suis dit, bon, 80 km, c'est 10 km et je multiplie par 8, quoi. C'est ça, normalement, 80 km, non, ça? Ouais. Eh ben, en fait, non, c'est pas ça. Donc je suis parti et tout, mais je suis parti comme si j'allais chercher le pain, quoi. Je courais comme si j'avais raté le bus, quoi. Et en fait, petit à petit, j'ai décliné, et j'ai fini à l'envers total. Mais en fait, j'ai adoré. Et tu vois, ça c'est un truc qu'on retrouve dans l'ultra longue distance et que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu termines à l'envers. Bien souvent à l'envers, le lendemain tu peux même plus marcher, t'as des douleurs partout, etc. Et pourtant t'as adoré. Et donc la personne te voit arriver. Enfin moi combien de fois j'arrive des fois au boulot, le lendemain je suis complètement cassé, limite je peux plus marcher, je boite et tout. Et je dis c'était génial. Et là la secrétaire elle te dit c'était génial. Ah je dis ouais c'était super. Ah ouais, c'était super. Et en fait, ils comprennent pas parce que t'es perché, quoi. T'es sur ta planète, quoi. Et c'est ça que j'ai adoré. Lorsque j'ai vu dans quel état je finissais, l'ultra longue distance, je me suis dit, c'est vraiment ça, en fait, qui me plaît. C'est l'aventure, tout ce qui peut t'arriver. Il m'est arrivé des tas de choses. Puis des rencontres aussi. Sur l'ultra longue distance, aussi bien à pied qu'à vélo, tu as des rencontres, tu échafaudes des stratégies, t'arrives des galères, t'as des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, tu perds un truc ou tu... Faut que t'improvises, faut. J'adore en fait. Il y a un côté cap ou pas cap en fait. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et donc l'éco-trail de Paris, ça a été une révélation, peut-être pas. Le mot est peut-être fort, mais ça a été une première affirmation pour moi qu'il fallait que je poursuive dans ce côté un peu trop dur pour moi, un peu trop long pour moi. Voilà.
De mettre juste.
Et depuis, ça a été crescendo parce que. Plus les années passent, plus je fais des trucs. Ma femme me dit, plus les années passent, plus tu fais des trucs difficiles. Ouais, sans doute, je sais pas. Sans doute,
toi. Parce que tu vieillis aussi, tu y arrives moins bien, peut-être.
Elle a voulu je ne vieillis pas, Richard. Je grandis.
Tu grandis.
Je ne vieillis pas, je grandis.
Ah, tu mûris, tu veux dire.
Je grandis. Je ne veux pas qu'on dise ça. Je ne vieillis pas. On ne vieillit pas. On grandit.
Oh putain, donc j'ai vexé Eric Le Blaché, mince.
Non, mais c'est un principe de vie, tu vois. Voilà, dans la vie, on vieillit pas. C'est bête. C'est juste un verbe qui change. Mais c'est déjà rassurant. Et je trouve que ça t'élève aussi, tu vois. Voilà. Oh, je sens bien que j'y vieillis. Non, non, non. Tu grandis parce que t'as pris de l'expérience. Tu as vécu mille choses. Donc j'ai grandi, d'accord.
Ok. J'avais une citation que je voulais ressortir, qui était parfaite pour ce que tu viens de dire, mais malheureusement je me souviens plus de l'énoncé parfaite. Donc je vais m'abstenir. Après cet éco-trail, comment ça s'est traduit justement ton escalade dans la difficulté, dans la longueur, dans l'insouciance, si on peut dire?
Eh bien, ça s'est traduit par déjà le fait de quitter le milieu compétition FFC en cyclisme, parce que j'avais quand même poursuivi un petit peu, pas avec la volonté d'être à haut niveau, hein, pas ça, mais je continuais à courir en deuxième catégorie ou même en première catégorie. Mais j'ai déjà eu une première, j'ai eu en fait une étape importante dans ma carrière. On peut peut-être en parler en préambule parce que celle-ci, elle vaut quand même un petit peu. Mmh. Le 3 juin 2008, j'ai participé à une nocturne cycliste à Melun et j'ai chuté. Et c'était une nocturne toute catégorie. Et j'ai eu une quintuple fracture ouverte tibia péronée. Donc j'ai eu la jambe qui a été un peu broyée et donc je suis à Melun, je suis rapatrié à l'hôpital de Meaux grâce à un docteur à Meaux que je remercierai jamais assez, donc il me rapatrie à Meaux et là je suis sous morphine, ma femme est là et le professeur rentre dans la chambre et donc il dit à ma femme je peux vous parler dans la chambre et moi je dormais, mais enfin je dormais pas en fait, je comatais mais j'ai tout entendu. Et en fait, ce jour-là, ça change tout dans ma vie. Il dit à ma femme, écoutez, bon, sa jambe, c'est compliqué, bien sûr, mais on pourra le sauver, donc il pourra remarcher. Par contre, pour le sport, je pense que ça va être compliqué, ce sera difficile, ça sera pas possible. Donc, il faudra qu'on arrive à lui faire admettre. Pour ça, il y a des psychologues, il sera suivi, etc. Donc, il arrivera à assimiler, vous en faites pas, il arrivera à assimiler. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas le 2 juin faire du vélo et le 3 juin, c'est impossible. Toute ma rééducation a été sur le cap ou pas cap. Sur le ah ouais, tu crois que je suis pas capable. Toute ma rééducation a été édictée sur ça. 6 mois après, je recourais à pied. 9 mois après, j'ai participé à ma première course de vélo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné. Et j'ai gagné parce que ça pouvait pas être autrement. C'est la seule course. Alors je te passe les étapes, hein. Fixateur externe, 9 broches. Enfin bref, j'ai eu 3 opérations. J'ai galéré quand même. Enfin j'ai pleuré quand même. J'ai pleuré. Vraiment, je te jure que ça fait mal. Ce truc-là, ça fait mal. Bref, je suis arrivé au départ de la course. C'est la seule course où quand j'ai pris mon dossard. Je regardais tout le monde autour de moi. Tu sais, les courses amateurs, tu sais où tu viens avec ta pièce de 2 euros, là. Tu sais, pour prendre ton dossard. Si t'as pas la pièce de 2 euros, ils te donnent pas le dossard. Ouais. Bon, bref. J'étais à la remise de dossard. J'ai regardé tout le monde autour de moi. Et je me suis dit, aujourd'hui, je gagne. Les gars, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, je gagne.
Tu leur as dit à eux?
Dans ma tête, mais c'était écrit d'avance. C'était écrit d'avance. La veille, j'ai fait du derrière voiture avec mon père. Sur le parcours. Et j'ai dit à mon père, tu vois papa, demain j'attaque ici, dernier toit. Bon, il m'a regardé, voilà, bref. Ça s'est passé exactement comme ça. Sauf qu'il y a 2 mecs qui m'ont suivi. On arrive à 3 sprints. Je gagne 1 sprint tous les 9887 tentatives. J'ai gagné ce sprint-là. Pourquoi? Mais parce que c'était écrit d'avance, en fait. J'ai fait le sprint, mais c'était... Tu comprends ce que je veux dire? C'était sûr, j'allais gagner.
Ah, tu l'avais décidé, et ça a été parce que se dire j'arrive, je gagne, bon, déjà que ce soit écrit, c'est pas forcément toujours sûr. Et puis il faut aussi surtout le vouloir. Là, tu l'avais farouchement décidé quand même.
C'est ça. Mais ça a été une cap ou pas cap en fait. Tu vois, ça a été. Il fallait en fait. Il faut aller se battre. J'avais pas le choix. Et par orgueil, par fierté, partout. Et l'histoire n'était belle in fine. Que si je gagnais la course, en fait. Et lorsque j'ai gagné la course, j'étais en paix avec moi-même. J'avais tiré un trait. L'histoire était terminée. Alors, je garde une séquelle et pour terminer définitivement avec cet accident, cette parenthèse-là, je garde une séquelle sur ma jambe gauche, donc, qui fait que mon pied rentre un petit peu, tu vois, quand je cours. Et donc, c'est assez visible. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas dans la pas la moquerie, mais en tout cas dans le jugement des gens, voilà, qui parfois jugent que je cours un petit peu que je suis pas très beau quand je cours en fait. Mais en fait, tu peux dire tout ce que tu veux de moi, tu vois, tu peux dire de moi que j'ai les oreilles décollées, tu peux dire tout ce que tu veux de moi, mais juste pas ça. Parce que je sais trop que ça fait mal. Donc tu peux dire tout ce que tu veux de moi, mais je ne supporte pas. Et hier, à l'entraînement à pied, j'ai croisé un groupe de coureurs et j'ai entendu quelqu'un qui a dit à son pote, ah lui, de toute façon, je le reconnais rien qu'à la foulée. J'ai fait demi-tour. Tu dis pas ça. Je te le dis, tu dis pas ça. Parce que ce que j'ai eu, ça fait mal. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ça, on dit pas. Le jugement, faut faire attention à ça, à la moquerie, à tout ça. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans la vie. Grâce à ça aussi, tu vois. Je suis loin d'être un handicapé, hein. Je me considère pas du tout comme ça, hein. Mais attention au regard des gens, parce que moi, je sais ce que c'est. J'ai une cicatrice qui va de bas en haut, hein. Là, ils m'ont coupé comme un saucisson sec. Je sais ce que c'est. Et ça m'a aidé. Et parfois, je dis, la plus belle partie de mon corps, Richard, tu sais ce que c'est? C'est ma jambe. C'est ce qui est le plus joli. Hein. C'est la plus belle partie de mon corps. Fin de la parenthèse.
Bon, alors, la citation, parce que j'ai cherché quand même, en fait, pendant que tu parlais, moi, je t'écoutais pas, j'ai cherché mon truc. C'est, on ne s'arrête pas de... Attends, non, c'est pas ça. Putain, je suis nul pour raconter des histoires, par contre. Je devrais m'inspirer de Éric Le Blacher, dis donc. On ne s'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux. On devient vieux parce qu'on s'arrête de jouer. Et ça, c'est de George Bernard Shaw. Et ouais. Donc, George Bernard Shaw, né à Dublin en 1856, dramaturge, critique musical et surtout acerbe, provocateur, pacifiste et anticonformiste. Il obtient le prix Nobel de littérature en 1925. Ça me plaît bien. Acerbe et provocateur.
Bah, il y a un peu de ça, sans doute. Ouais. Hein. Ça, c'est... Mais c'est beau, ça, quand même, non?
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une belle citation. Hein.
C'est...
Il y en a plein, de toute façon. Il y en a plein des trucs comme ça. Donc, oui, c'est joli. Et ce qui est surtout rigolo, c'est l'époque à laquelle ça se joue. Tu vois, 1925... Ouais, ouais. Quand même, quoi. Donc,
je dis parfois même à chacun son Everest, tu vois. Et en fait, tu peux te trouver un Everest, c'est-à-dire un challenge, un peu un truc un peu hors norme, un peu difficile, à n'importe quel âge. Tu as des gens à 75 ans, leur Everest, à eux, c'est de faire un tour du Mont Blanc en vélo. Mais c'est génial, bravo, c'est superbe. Et lorsqu'on me dit des fois, ouais, mais attends, c'est rien par rapport à toi, mais tu trouveras toujours meilleur que toi. Toujours. T'as toujours un mec qui est allé plus vite. T'as toujours un mec qui a monté 3 centimètres de plus. T'as toujours un mec. À chacun son Everest. À chacun son. Il y a pas de, ouais, mais ma victoire, c'est rien par rapport à ta victoire. Et ma victoire à moi, c'est quoi par rapport aux 4 victoires de Chris Froome? C'est sur le Tour de France. Enfin, c'est à un moment, à chacun son Everest. Et donc, il n'y a pas d'âge pour se fixer un objectif et pour avoir un défi un peu hors norme. Donc et ça aussi, tu vois, c'est respecter les gens, c'est le jugement, en fait. On en revient toujours un petit peu à ça, quand même. Moi, j'aime bien chambrer, je suis un peu chambreur, bon, voilà. Mais je suis pas dans la moquerie, en tout cas, voilà. Et surtout pas dans le niveau des coureurs. J'adore. Moi, mon père, il a 74 ans, il fait 21 de moyenne quand il fait du vélo. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial, en fait. Voilà.
On pourra les réunir. Je pense que le mien, il fait à peu près ça en ce moment aussi. Non, quoi qu'il soit, il roule plus.
Ah, ils vont faire un trophée Baraki, alors.
Bah, super. Oh là là. Oh là. Le défi vintage. C'est ce qu'il me dit. Il me fait, non, moi, la mode du vintage, ça m'intéresse pas. Je le suis moi-même. Donc, ça me fait pas trop rire. Tu sais, les maillots, de ressortir les maillots Peugeot, les maillots Bic et tout. Il a encore dans son bureau, il y a une photo de la photo de sa première licence quand il était à l'UC Châteauroux, tu vois.
Ouais, d'accord.
Ouais. Qui a été un super club, une super passerelle pour les pros. C'était un super club élite. Et maintenant totalement mort, mais c'était c'était il, je sais plus, c'était en 1966 donc. Et c'était marrant, quoi. Bon, donc, si j'ai bien compris, je pourrais me moquer de tout, sauf de tes cicatrices et de ton pied, ta foulée bizarre.
Ouais, enfin, c'est voilà, j'ai expliqué pourquoi. Voilà, c'est un truc sur lequel je suis presque un peu sensible, quoi. Voilà, je suis sensible parce que, ouais, voilà. Voilà. Ouais, exactement.
Comment tu as fait quoi après? Parce que l'éco-trail, bon, c'est bien, mais il me semble que tu as fait un petit peu du TMB aussi.
Oui, alors je Bon, le vélo, j'ai jamais arrêté, donc j'arrêterai jamais. J'ai toujours considéré que j'étais cycliste qui pratiquait de la course à pied et non pas un coureur à pied qui fait du vélo, par exemple. Je serai jamais un coureur à pied et je crois au fond de moi que je ne veux pas en être un, en fait. Je suis un cycliste qui pratique.
Ça veut dire quoi être un coureur à pied?
Un coureur à pied.
Parce que tu fais 32 au 10, donc, ou tu l'as fait. Il y a quand même la majorité des coureurs qui en seront jamais capables.
Oui, mais j'ai fait 32 sans faire d'exercice sur 400 mètres, d'exercice, des choses comme ça, en fait, hein. C'est-à-dire que, être un coureur cycliste qui fait de la course à pied, c'est, faire dans une semaine davantage de vélo que de course à pied, c'est mon cas. C'est ne pas être dans les codes, même vestimentaires, tu vois. Par exemple, je cours pas, je suis incapable de courir avec un j'appelle ça un Marcel, moi, mais bon, comment t'appelles ça en course à pied, là?
Un débardeur,
voilà. J'ai pas ça, en fait. Je suis mal dans ma peau quand j'ai ça. En plus, moi, j'ai la démarcation du bronzage de l'agriculteur. J'ai ça toute l'année, hein, démarcation du bronzage de cycliste, quoi. C'est ce qui m'a amené aussi au trail, c'est peut-être le fait qu'on sortait aussi du standard de l'athlétisme, voilà, de manière plus globale, en fait.
Ça aussi, ça y fait.
Je me suis pas jamais, donc je me suis toujours considéré comme un coureur cycliste qui fait de la course à pied toujours, et j'ai pratiqué beaucoup de course à pied quand même progressivement, et du vélo en entraînement, en vélo de l'ultra longue distance pas mal, on en reparlera sans doute après. Et donc, pour revenir à ta question, ensuite, je me suis lancé dans des trails à la montagne, en haute montagne, dans les Alpes, parce que c'est un massif qui m'attire tout particulièrement. Et je me suis inscrit à la TDS, donc c'est Trail des Ducs de Savoie, c'est l'antichambre de l'UTMB, en fait. C'est une épreuve de la semaine UTMB, mais ce n'est pas l'UTMB en tant que tel. L'UTMB, c'est vraiment le tour complet du Mont-Blanc, ça fait 175 km. Et moi, j'ai fait l'épreuve de 115 km, quoi. Et donc, j'ai fait en 2014 et 2015. Et ensuite, en 2017, je me suis inscrit sur le vrai UTMB. Et donc, c'était un peu une finalité pour moi de faire le tour du Mont-Blanc à pied. Et je suis parvenu à aller au bout sur une édition qui était assez difficile parce que certains considèrent que c'est l'édition qui a été la plus difficile à cause de la neige. On a eu des conditions météo qui étaient assez dantesques quand même pour la période de l'année, fin août. Et donc, ça a été pour moi une finalité, une première finalité dans le trail, d'avoir fait le tour du Mont Blanc, mais aussi d'avoir fait deux marathons des sables, parce que j'ai quand même fait deux marathons des sables avec un groupe d'amis. Et ça reste pour moi un énorme souvenir d'avoir participé et d'avoir été à terme de ces deux marathons des sables.
Bon, on va pas refaire tout au CV non plus, mais t'as aussi, comme tu cours bien et que tu roules bien, t'as fait un petit peu de duathlon, notamment longue distance. Il me semble que t'as été champion de France dans les catégories d'âge, enfin en tout cas dans ta table, dans ta catégorie d'âge.
Ouais, c'est intéressant ça. Tu vois, c'est le duathlon, c'est intéressant et c'est une autre traduction de ce que je te disais. J'ai fait du duathlon, j'aimais bien. Mais je me suis jamais senti intégré à ce sport-là. En fait, je trouve que c'est une mentalité, c'est une façon de pratiquer qui ne me correspond pas vraiment. Et je voulais être libre. Et en fait, lorsque j'ai commencé à avoir quelques petits résultats en duathlon, je me suis aperçu que je pouvais rapidement tomber dans un code de pratique. En duathlon, c'est-à-dire participer aussi bien à ce qu'ils appellent des grands prix, c'est-à-dire un peu comme des coupes de France avec dans l'équipe à laquelle j'appartenais, enfin dans le club pardon auquel j'appartenais, et en fait je voulais pas tout ça, et donc j'ai participé à mon dernier duathlon en 2017, et j'y suis pas retourné. J'ai gagné trois fois un championnat de France groupe d'âge. Et puis j'ai gagné pas mal de duathlons locaux. Oui, locaux. Enfin, il y en a un qui était quand même d'un peu meilleur niveau, le duathlon de Meaux, qui rassemble souvent des coureurs un peu plus confirmés. Mais à un moment, j'ai arrêté parce que j'avais fait le tour de la question et j'avais l'impression que j'allais perdre un peu ma liberté, en fait. Voilà. J'aime bien maîtriser. C'est ce que je te disais en préambule. C'est maîtriser un peu toutes les ficelles, quoi. Tu vois, l'inconnu, en fait, l'inconnu t'attire. Et puis quand à un moment tu y as trop goûté, En fait, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, j'ai pas le temps. Si tu t'éternises de trop là-dedans, après les années elles passent et tout, t'as pas le temps. Faut y aller. Faut faire d'autres trucs, en fait, quoi. Il y a tellement de trucs à explorer que, voilà. Duathlon, c'est fait, c'est coché. Et rien ne dit que j'y retournerai un jour, sauf pour un truc qui sortirait un peu hors norme, un truc un peu hors format. Mais refaire un truc ouais. Non classique non.
Faudrait que je me renseigne, mais c'est enfin ça a pas du tout. C'est un petit peu dommage, mais ça a toujours été un peu le parent pauvre du triathlon et ça servait de préparation pour tu vois au printemps et c'est pour en préparation pour le tri ou à l'automne quand il faisait trop froid dans l'eau. Et les courses vraiment vraiment type Powerman, Zofingen, tout ça, c'est ça a pas eu le développement marketing de l'Ironman et du Half Ironman. Et c'est carrément tombé en désuétude. Il y a une époque, c'était vraiment bien de gagner à Zofingen ou de faire cette course là. Aujourd'hui, c'est enfin ça passe complètement inaperçu.
Oui,
quoi.
C'est vrai.
Tout le monde se rue sur l'Ironman. Mmh. C'est tellement bien marketé que ça attire du monde et le Powerman n'attire personne alors qu'à une époque c'était et puis il y a eu enfin on va pas rentrer dans plein de considérations mais il y a eu son lot de folie de performances dingues à une époque dans la deuxième moitié des années 90 ça allait super vite comme par hasard comme partout d'ailleurs.
Oui, c'est plus marginal le duathlon ouais. Et donc comme c'est plus intime. C'est un milieu qui est quand même un peu plus fermé et lorsque j'y arrivais, j'étais un peu regardé quoi. Voilà, un peu regardé parce que j'étais pas vraiment dans le standard. Donc je me suis jamais tellement senti à l'aise en fait. J'ai jamais pris un plaisir de dingue. Après, je ne juge pas ceux qui le pratiquent et tout et c'est vraiment pas le sujet. Mais voilà, je me suis jamais trop senti et donc il valait mieux que je fasse autre chose. En fait, j'ai tellement d'autres choses à faire que sans doute je referai un jour, mais uniquement que si c'est un gros challenge, quoi. Voilà. Autrement, non.
Il y avait un mec de Festina qui alternait à l'époque de cette équipe, Jonathan Hall, un Australien, et il a été champion du monde de duathlon courte distance.
D'accord.
Et il était également chez Festina.
D'accord. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que en course à pied, le geste, bien sûr, il est fondamental, mais la caisse d'un coureur cycliste permet assez naturellement de transposer une performance assez bonne en course à pied. Ça, c'est...
Bah, si t'as la morphologie, là, tu vois, là, il y a quelques jours... je suis tombé sur un post de Tom Pidcock, donc qui a fait quatrième au championnat du monde de cyclocross la semaine dernière. Ouais. Il a bouffé un 5000 mètres à pied en 14 minutes.
Alors bon, il a été recorrigé. Il a été recorrigé un peu. Hein,
oui, parce qu'il mettait les temps intermédiaires et ça collait pas en fait. Copain, parce que tout était au-dessus de 3 minutes.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est pas possible.
Mais apparemment, il aurait fait 3-10 au kill. Donc bon, ça cause dans le poste quand même sur la distance qu'il a fait. Mais ça montre que en effet on transpose très facilement. Mais après ça, quand tu parles de, tu m'as dit, tu viens de nous dire, ça dépend de la morphologie. Donc in fine du gestuel. Ah oui. En fait, en course à pied, le geste il est fondamental, il est même capital. Bah oui. Et donc lorsque tu es un peu trop lourd, tu as un geste qui n'est pas bon, qui n'est pas fluide. Enfin voilà, j'ai pas le terme exact parce que je suis pas un athlète au sens athlétique, mais en tout cas le geste il est fondamental et bien souvent les coureurs ont la capacité à faire et ils courent pas bien en fait et comme ils courent pas bien ils courent pas vite tout simplement. Mais ce qui est sûr c'est que quand tu fais du vélo tu transposes assez facilement tes capacités en course à pied, voilà. Ce qui est pas le cas de l'autre côté.
Il y a plein de c'est pas le cas, mais aussi il y a peut-être il y a le geste aussi. C'est essentiellement le geste et aussi une petite composante musculaire différente. Tu vois une composition musculaire légèrement différente, peut-être plus explosive pour avoir un geste. Tu vois, c'est comme si tu donnais tu voulais faire tourner ta roue de vélo. Tu vas mettre un coup rapide pour garder la vitesse. Tu vas pas accompagner la roue. Tu vas mettre un coup sec.
Ouais.
Et la course à pied pour aller vite, c'est ça en fait. Et on voit beaucoup de cyclistes qui courent assis. Tout simplement parce que ils sont tassés par terre et ils ont pas ce côté aérien du cours rapide.
Ouais, c'est ça, le gestuel ils l'ont pas et puis la course à pied c'est plus compliqué aussi dans le sens où il faut bien matérialiser dans ton entraînement un temps d'échauffement. Alors qu'en vélo, honnêtement, ouais, tu montes sur ton vélo et c'est parti, hein.
Puis c'est parti. Mais ça, on a déjà eu cette discussion avec, je sais plus avec qui d'ailleurs, je crois que c'est avec Jean-François Guy Borel, que la course à pied, la natation sont des sports vraiment avec un protocole à vélo. Non, avec Jean-Yves Coupu aussi. Et c'est le vélo, c'est encore un petit peu freestyle, mais c'est normal. Puis heureusement, à la limite, mais le trail a ce côté un peu freestyle où t'es pas obligé de te faire des séries des 3 fois, 5 fois, 400 ouais, à une 10 ou une 15 en fonction de ta
ouais,
VMA.
Ouais, ouais. Puis tu joues avec le terrain, et le puis, trail aussi. Tu joues avec le terrain, en fait. C'est le aussi terrain qui est ta composante. Et ça s'apparente beaucoup à ce que nous on fait dans le vélo au final. On joue avec le terrain, on joue avec les montées, les descentes, et le trail, ça ressemble aussi beaucoup à ça.
Bah, à pied, il y a les fameuses séances fartlek, c'est ça, hein. Le fartlek, c'est un terme nordique d'entraînement nature avec en jouant vraiment avec le terrain, et le vélo, c'est souvent que ça. Donc,
ouais. Ouais, 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 ouais.
Bon, on va refermer la parenthèse, cette parenthèse. ça me rappelle vraiment pas de bons souvenirs, tu vois.
Ah ouais,
j'en ai fait beaucoup de duathlon, j'ai énormément couru.
D'accord.
Et quand tu dis 3-10, 3-15 pour Tom Pitcock, c'est ce que je faisais.
Ah,
et,
bien.
Et du coup, ouais, mais pas, enfin bref, pas, c'est pas, j'aimais pas ça. J'étais, tu vois, comme toi, j'étais pas fait pour ça. J'aimais pas ça, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, ça s'est trouvé comme ça. Mais j'aimais pas ça du tout. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté, je n'ai fait que du vélo et je j'ai aucun regret.
D'accord. Donc, ouais. Bon, c'est.
Et toi, la très longue distance, alors parce que tu as fait le Tour du Mont Blanc, tu as fait la fameuse rando du Tour du Mont Blanc. Et d'ailleurs, pour info, je fais un épisode avec Ralph demain matin.
Ah,
donc.
Super.
Ouais.
D'accord.
Si tu me racontais un petit peu ces expériences d'épreuves un petit peu plus longues et jusqu'à aller vraiment sur du vrai ultra.
En vélo, hein, tu parles.
Ouais, ouais, oui, bien sûr. Bah oui, t'as déjà couvert la course à pied.
Alors, en vélo, la première épreuve ultra que j'ai faite, c'était l'UTMB, oui, le Tour du Mont Blanc. Enfin, non, pas l'UTMB, pardon. Le TMB, le Tour du Mont Blanc à vélo. Je me suis lancé dans la bataille en 2011, la première année. En fait, pour la parenthèse, j'aime bien les premières éditions dans ma vie. C'est un truc qui me plaît. Les premières éditions, si bien à pied, à vélo, j'aime bien participer à des premières éditions. Donc, j'ai participé à la première édition du Tour du Mont Blanc et puis je l'ai remporté. Et ça m'a plu, en fait. C'était tout ça est la suite logique, en fait. Enfin, tout ça s'enchevêtre bien, en fait, avec ce qu'on vient de parler à propos du ultra trail. Donc j'ai participé ensuite à 3 autres UTMB dans TMB, pardon, Tour du Mont Blanc. J'en ai fait 4, ouais, au total. Ensuite, je me suis lancé dans une épreuve ultra longue distance qui existait dans les Vosges, qui s'appelait le Raid Extrême Vosgien.
Il
n'existe plus parce que son organisateur est hélas parti trop tôt il y a 2 ans, oui. Et donc c'était une épreuve qui était tout à fait marginale, mais en fait c'était les prémices.
Il existe encore, Eric, hein. Je suis pas entièrement sûr, mais je pense que ça existe.
Non, ça
encore
existe plus,
ou
non.
Moins.
Non, non.
T'es
ah ouais, certains, ouais. Ouais, ouais.
Certains.
Ouais.
Bon,
ouais, certains. Non, le Raid Extrême Vosgien, en fait, c'est parti. L'organisateur, il avait un peu inventé un truc hors norme à l'époque. Je pense que maintenant ça s'inscrirait mieux dans le paysage parce que on a tellement basculé rapidement là. L'ultra longue distance en vélo est en train de prendre des proportions qui sont juste incroyables et qui en partie sont liées au Covid. Hein. Enfin, pour moi c'est le Covid, hein, qui développe l'ultra longue distance à vélo. Donc j'ai participé au Raid Extrême Vosgien, je l'ai remporté 2 fois. Et après, j'ai fait quelques 24 heures aussi. J'avais gagné les 24 heures du Mans à vélo, en duo, 2 fois, donc avec 2 amis différents. J'ai gagné les 24 heures du Castellet solo, donc sur le parcours du Grand Prix de Formule 1 actuel. Et puis à vélo, ça va être à peu près tout. Après, j'ai fait des petits trucs, des petits délires personnels, des 24 heures autour de chez moi. Enfin, voilà, j'ai fait des trucs voilà, parce que j'aime bien un peu le trop long, trop dur, comme je t'ai dit, et j'étais retourné aux 24 heures du Mans il y a 3 ans, et j'ai senti une évolution, en fait, dans la pratique. J'ai senti que c'était devenu un peu trop compétition, en fait, tu vois, un peu trop pas élitiste, mais ça avait basculé du côté qui me convenait pas. Et donc, je me suis dit que l'ultra longue distance, le plus beau ultra longue distance, c'est l'ultra aventureux. Et à 24 heures sur un circuit automobile, on peut pas dire que ça le soit vraiment, quoi. Donc du coup, je me suis un peu plus tourné vers de l'ultra avec des parcours, avec des régions. Mais j'avais quand même un peu délaissé depuis 2 ans, c'est-à-dire 2019 et 2020 jusque mai, délaissé l'ultra à vélo. Je faisais du vélo, etc. Mais j'étais quand même beaucoup sur la course à pied, sur les épreuves que je faisais, mais toujours le vélo. Et pourquoi je t'ai parlé du Covid tout à l'heure? Parce que justement, le Covid a fait que des épreuves à pied ont été annulées progressivement. Et que donc, je me suis dit en 2020, merde, j'ai plus d'épreuves, j'ai plus rien. Et moi, j'ai besoin d'avoir un challenge. Je sais pas si j'arriverai à faire du sport si j'avais rien au bout. Pas forcément une compétition, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être traverser ceci, cela, ça peut être peu importe. Mais il me faut un truc, en fait. C'est comme ça. Et donc j'avais presque plus rien, et puis par hasard sur Facebook, je suis tombé sur une publicité sur la Race Cross France, 2600 km. Et je connaissais pas du tout, en fait. Et 2600 km, pour moi c'est juste incroyable. C'est un truc incroyable. Et donc j'envoie un texto à ma femme et je dis t'as vu ce truc là, ça existe tout, c'est juste incroyable. Elle me dit bah pourquoi tu le fais pas? Bah je dis parce que je suis pas capable. Je suis pas capable
parce
de faire
200
km, quoi.
Bah, évidemment. Bah,
elle dit, bah, inscris-toi si t'es pas capable. Vas-y, fais. Et le soir même, j'étais inscrit. Et je me suis inscrit.
Tellement prévisible, Eric Leblachet.
C'est vrai, sans déconner en plus. Je me suis inscrit, j'avais 1800 km dans les jambes, fin mai. Le 24 mai, je me suis inscrit. Donc, j'avais pas beaucoup de vélo, en fait. Et j'ai terminé l'année avec 18 000, je crois. Donc, j'ai borné après comme il fallait et cette année 2020 a été pour moi un vrai virage dans ma vie personnelle d'une part, mais aussi dans ma vie sportive, parce que je me suis aperçu que ce sentiment de liberté là, il était à fond dans l'ultra longue distance. Et je me suis aperçu aussi que j'avais pas forcément besoin, et encore plus que ce que j'imaginais avant, d'un résultat. T'as fait 4, t'as fait 5, t'as fait 8, t'as fait 15, t'as fait 20. J'avais pas forcément besoin de ça. Que mon bonheur de sportif, il était de faire un truc, de me barrer, de faire de l'ultra longue distance, de faire un 2600, un 3500, de faire un truc très haut et pas forcément avoir le résultat. Bien sûr, quand tu fais la RAF, bien sûr, tu limes pour essayer. Quand t'es sixième, t'essaies d'être cinquième. Quand t'es cinquième, t'essaies d'être quatrième. Et cette année, j'essaierai d'avoir le meilleur classement possible. Mais en fait, c'est pas ça que tu cherches in fine. C'est de le faire, c'est de l'avoir fait. Et ça, ça a été, c'est rentré dans mon, ça s'est vissé dans mon corps en 2020, quoi. Je me suis dit, en fait, t'as besoin juste d'aventure, voilà. Et sans doute progressivement, j'inscrirai dans mes années des éléments qui n'auront pas rapport à un classement. Des choses où il n'y aura pas de classement parce qu'il n'y aura pas de compétition, en fait, tout simplement.
Dis donc, je reviens un petit peu sur le Raid Extrême Vosgien. Alors, ça a été la première édition a été en 2007. Et pourtant, ces dernières semaines, on peut dire, on a l'impression que les épreuves d'ultra longue distance ont été inventées très récemment.
Ouais, c'est vrai.
Que certains essayent de s'approprier l'invention de la longue distance. Ouais. Alors que déjà le Raid Extrême Vosgien n'a certainement rien inventé non plus. Il y avait du long bien avant. Et j'ai l'impression qu'on s'attire un petit peu qu'on se dirige vers une guerre d'ego où chacun va essayer de défendre la paternité du truc, ce qui est complètement faux visiblement, d'être celui qui a inventé le truc, ouais. Celui qui va faire le truc le plus ouf. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une petite guéguerre d'ego là quand même.
Mais l'ultra longue distance, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu le trail d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que ça c'est une discipline supplémentaire qui s'ajoute à la pratique cycliste, parce que c'est vrai que le vélo on peut le pratiquer, nous on a cette chance là au final. on pratique un sport qu'on peut à multifacettes, mais comme je crois aucun autre sport. Aucun autre sport. Le vélo, tu peux faire, tu peux même en faire ton travail. Tu peux faire du vélo taf. Tu peux faire, faire mille choses à vélo. Et je crois dans aucun autre sport. Et donc l'ultra longue distance, c'est une facette nouvelle ou presque nouvelle, parce que finalement, elle est quand même assez vieille. Et c'est le Covid qui a accéléré ça. Le Covid a généré chez beaucoup de personnes l'envie de simple, en fait, l'envie de revenir à l'essentiel. Et on s'est aperçu que, en plus, il y avait plus de compétition. Donc, il n'y avait plus de challenge sportif à proprement parler. Et donc, les gens ont un peu commencé à prendre leur vélo et puis à aller à un endroit. Enfin, cet été, tu avais des gens qui allaient jusqu'à tel endroit, qui faisaient demi-tour et puis qui rentraient. Tu as ceux qui partaient en vacances en vélo. Enfin, bref, tout le monde s'est un peu lancé là-dedans. Il y a eu, ça s'est traduit par une explosion en chiffres des quelques épreuves ultra longue distance qui ont eu lieu, comme la Race Across France, qui a battu son record en 2020. Avant de l'exposer en 2021, puisque l'épreuve est déjà complète, je crois qu'il y a plus de 650 inscrits. Et du coup, cette année, je te rejoins un peu, Richard, il y a énormément, j'appellerais pas ça des épreuves, parce que finalement, eux, c'est vraiment pas des épreuves. C'est des challenges qui naissent et qui, du coup, peuvent commencer à faire penser que c'est un peu la course à l'échalote. Je te rejoins complètement. Il existe depuis plusieurs années un défi qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, les 7 majeurs dans le sud de la France, qui a été créé par Patrick Gilles. Et donc, c'est un défi qui consiste à escalader plusieurs cols dans une certaine distance, mais avec juste, tu as une trace GPX et puis voilà, il y a personne qui va baisser le drapeau au départ. En fait, chacun le fait quand il veut. Et donc, depuis ce 7 majeur là, cette année, j'ai vu passer tout un tas de communications. Il existe maintenant l'eau marteau, il me semble, quelque chose comme ça.
L'homo marteau,
ouais, la conquête des Ardennes. Enfin, il y a un certain nombre de défis comme ça qui ont poussé et qui, ben, tant mieux en fait, hein, parce que ça participe à faire éclore la pratique et à la faire reconnaître peut-être un peu plus et à moins penser que les personnes qui pratiquent ultra longue distance, c'est des personnes qui ont des sacoches devant, derrière, des baskets et puis des lumières à l'avant, à l'arrière, quoi, parce que c'était un petit peu ça quand même dans l'esprit des gens. Et donc ça participe, mais c'est vrai que ça peut un peu s'apparenter à une course à l'échalote, et il ne faudrait surtout pas que les valeurs se perdent un peu, en fait, parce qu'il y a quand même des valeurs de dépassement de soi, de partage, de solidarité même, qui sont propres à la discipline, propres à... Puis il y a une quête personnelle, en fait. L'ultra longue distance, c'est d'abord une quête personnelle. Et il faudrait pas que ça dévie un peu trop et que bientôt on commence à arriver sur des épreuves d'ultra longue distance avec de l'assistance, tu vois. C'est-à-dire avec le mec qui normalement est sans assistance, mais il a un mec qui est caché et qui tous les 50 bornes lui donne des bidons, machin, bidule. Parce que l'ultra longue distance,
ça a déjà existé.
Eh oui,
ça.
Bah je sais.
Sur des épreuves longue distance, il y a des mecs qui sont arrivés quasiment à un vélo différent.
Ouais, j'ai entendu des choses à ce sujet. J'ai entendu sur la Race Cross France, pour pas citer, mais parce qu'on m'a rapporté les choses. On m'a dit. Alors après, comme je dis, il y a la règle et l'interprétation de la règle. Il y a un moment, quand tu es sur de l'ultra longue distance comme ça, il y a la notion de te démerder. Faut savoir te démerder. Donc, faut improviser. De toute façon, on m'envoie régulièrement des messages pour me demander mon avis ou des conseils, etc. Des fois, on me dit, bah, tiens, j'ai prévu de faire un arrêt, tel kilomètre et tout. Je dis, laisse tomber. Ça ne se passera jamais comme t'as prévu. Je te le dis, ça se passera jamais comme t'as prévu. Donc, il faut savoir improviser. Donc, parfois, eh bien, il faut savoir, il t'arrive une galère, par exemple, en Normandie, sur la Race Cross France, t'as un pote qui habite à 50 bornes, tac, tu l'appelles, ah, je suis là, il vient de m'arriver une galère, tu pourrais pas m'amener. Pour moi, c'est pas tout à fait, ça fait un peu partie du jeu de la débrouille, ça, d'activer le réseau. Bah, je suis en Normandie. Bah, tu peux m'aider. Ça fait partie du réseau.
Oui, c'est autre chose.
C'est autre chose. Ça, c'est mais, autre chose. Mais c'est vrai que.
Voir maman dans le camping-car qui t'attend tous les 100 kilomètres.
Exactement.
C'est pas de la démerde.
Moi, je peux te dire que sur la Race Cross France, j'ai pris un orage de dingue dans, l'Isran. Bref, un orage de dingue. J'arrive en bas à Val d'Isère, j'étais frigorifié, j'arrive dans une pizzeria à Val d'Isère. Je m'arrête, première pizzeria, j'étais gelé. Déjà, le mec, s'il te plaît, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, eh, vous rentrez pas, vous allez me dégueulasser mon resto, là. Et bon, bref, j'étais vert. C'est quoi? Et heureusement, la serveuse, elle me dit, bah, regarde, il est gelé. Bon, bref, je demande à quoi boire pour me réchauffer un peu, un thé. Il y avait un Anglais qui était là et il me dit, mais fallait pas monter, enfin, il parlait avec un accent, mais il parlait bien quand même. Il me dit, fallait pas monter l'Isran avec l'orage et tout. Je dis, monsieur, en fait, j'ai pas juste monté l'Isran, je viens de Mandelieu. Et le mec, il dit à son pote, il dit, you're stupid boy. Et ça m'est resté toute ma vie. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, I'm stupid boy. Bref, c'est un truc qui m'est resté. Je repars de ce resto-là, tout ça pour dire, et là, je vois un mec sortir d'un camping-car. Il avait la participation, il participait à la Race Cross France. Je sais, parce qu'il est dans le classement. C'est de la triche sans être de la triche. C'est pas, enfin voilà, j'ai pas dit que c'était un tricheur, c'est pas ça. Mais ça, c'est la dérive parfaite qui peut nous attendre à peut-être trop vouloir faire de nous, des athlètes de haut niveau. On doit rester des aventuriers. On doit rester des aventuriers. Après, mets-nous un chronomètre et tout, parce qu'on aime ça, parce que gagner la Race Cross France, c'est pas pareil que terminer deuxième, et deuxième, c'est pas pareil que terminer troisième. Mais il y a une notion d'aventure qui est fondamentale, qui est fondamentale, et j'ai peur de cette dérive-là. Moi, j'ai vu celui qui a gagné la Race Cross France 2600 l'année dernière, qui s'appelle Plisson. Tu m'excuseras, j'ai oublié. Bon, bref, je l'ai vu dormir dans un arrêt de bus, par exemple, dans la nuit et tout. J'ai trouvé ça beau, en fait. C'était mignon, tu vois. Parce que je me suis dit, c'est ça, la Race Cross France. C'est le mec, il est super fort, mais il improvise. Franchement, après, quand t'as des oreillettes, voilà, enfin, tu commences à avoir des oreillettes, t'as le mec qui t'appelle. Alors, je t'ai trouvé un hôtel à tel endroit, machin, bidule. C'est plus ça, c'est plus ça, et c'est ce qui pourrait arriver. C'est le danger qui guette cette discipline-là, en effet.
Bah, ça dépend des épreuves. Tu vois, je pense à Sylvain Grenier qui organise l'ultra défi de je sais plus quoi au Québec. Il y a un secteur de 400 km sans aucune possibilité de ravitaillement. Donc là, l'assistance est obligatoire parce que tu peux pas rester comme ça tout seul. Hein. Ouais. Ouais. Donc il y a vraiment des circonstances exceptionnelles, mais parce que c'est un terrain pratiquement hostile. On n'a pas cette hostilité en France. Il y a un bled tous les 20 kilomètres. Mm-hmm. On peut toujours dormir. Mm-hmm. Et puis Clément qui dort dans un abri bus, bah c'est quand même.
Ouais, Clément, voilà, c'est ça.
C'est quand même l'essence de ces épreuves-là.
Mais c'est trop beau, en vérité. C'est trop beau trouver. Et c'est l'ultra longue distance, c'est ce qui est magnifique. Moi, j'espère qu'un jour chacun pourra se fixer son challenge d'ultra longue distance. Et je ne mets pas de distance à cela, parce que pour certains, l'ultra longue distance, c'est 300 km. Ça, c'est un débat sans fin, de dire à partir de quelle distance peut-on considérer...
Chacun ses capacités, ses possibilités.
Bien sûr, mais bien sûr, l'ultra longue distance, c'est à partir du moment... moi, ma femme, faire 100 km en vélo, c'est l'ultra longue distance. Hein. Ben voilà, mais c'est beau. Et en vérité, il est où? Encore une fois, le jugement, il est stupide, parce que ça n'a pas de sens. Et... J'espère juste que on gardera toujours ce côté aventureux-là et qu'on sera pas trop dans l'assistance. Je vais te donner un autre exemple sur une épreuve ultra longue distance qui va se dérouler cette année. J'ai vu les traces sortir et puis je connais un peu un co-organisateur et il me dit ah bah sur les traces cette année j'ai précisé les endroits où il y a des fontaines. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Fais pas ça. Ça fait partie du truc. C'est ça qui est chouette. On sait pas, on va trouver une fontaine et tout. Bah, c'est beau, ça. Bah, si je commence à voir les endroits où il y a des fontaines. Si tu me mets les endroits où il y a une fontaine. Mais moi, les endroits où il y a une boulangerie, alors. Mais moi, les endroits où il y a un supermarché. Mais moi, les endroits où il y a un abribus. Non, c'est pas ça. L'ultra en distance, c'est t'as une trace, mon grand. Bim, c'est parti. Ah, c'est tu te démerdes, quoi. C'est et justement ça, c'est une dérive un peu, parce qu'il y a une notion de on veut que vous vous embêtiez moins, en fait. On veut que ce soit plus fluide, plus facile pour vous. Et ça, il ne faut pas. Voilà, cette histoire de fontaine, elle m'avait un peu embêté. Je me suis dit non, mais pas les fontaines. Pas les fontaines. On trouvera, on se débrouillera, quoi.
Bah, il a peut-être envie de rendre ça justement accessible, ça. Comme une première marche.
C'est ça.
Une première marche vers l'autonomie complète.
Je suis d'accord, en fait.
Ça peut être intimidant aussi. Ça peut être intimidant de se retrouver à poil dans la nature.
Mais c'est ça qui. Mais c'est ce qui fait que on était 40 à la Race Cross France 2600. C'est parce que c'est trop dur, en fait. C'est trop dur, c'est trop long, c'est trop compliqué. Je suis d'accord. Mais c'est ce qui est beau. Et progressivement, laisse les gens y arriver. Ils y arriveront progressivement. Ceux du 1100, ils vont arriver un jour sur le 2600. De toute façon, c'est, enfin, pour rester focus sur la Race Cross France, mais il y a bien d'autres épreuves ultra longue distance.
Oh là, hein. Oui.
Mais faut laisser les gens progressivement y arriver. Mais je pense que trop dénaturer, c'est peut-être beaucoup dire, mais trop donner des petits appuis. Ça rend pas forcément service à la discipline, en fait. Il faut pas, en fait. Il faut. Ça reste un truc un peu compliqué. Voilà, c'est un peu trop, dur, un peu trop long. Voilà, un peu trop compliqué. C'est ce qui est beau, justement.
Est-ce que l'ultime provocation, ça serait pas de supprimer toute notion de classement, justement? De tout supprimer, finalement, de ne fournir un petit peu comme la Divide aux États-Unis, fournir un départ commun, un parcours, et puis à l'arrivée t'es tout seul à la frontière du Mexique comme un con, et de justement supprimer ces notions d'épreuve de classement, avec des sponsors, avec plein de trucs, avec un coût d'engagement de plus en plus exorbitant. Est-ce que ça serait pas une voie d'exploration au lieu de s'acharner, parce que la standardisation, elle va venir aussi des marques qui vont s'approprier les épreuves, des fédérations qui vont un jour vouloir foutre un championnat ou quelconque là-dedans, même s'il y a déjà un championnat officieux, un championnat, il faut quand même que ce soit rattaché à une fédération pour que ce soit légal et légitime, sinon c'est que de la grande gueule et du marketing. Il faut que ce soit chapeauté par une fédération, et pour le moment ce n'est pas le cas. Ça serait peut-être une voie pour que, entre guillemets, l'esprit d'origine il doit y avoir soit préservé. D'ailleurs, on pourrait aussi discuter de l'esprit d'origine.
Oui, c'est sûr que
est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il doit y en avoir un,
le classement
à partir du moment où on parle de liberté, est-ce qu'il faut avoir un esprit, est-ce que la liberté c'est pas aussi de faire comme on veut?
Oui, le classement sans doute qu'il amène il pollue un peu l'esprit originel, sans doute de c'est un peu moins une aventure dès lors qu'on te demande de l'effectuer le plus rapidement possible malgré tout. Donc sans doute, mais...
C'est aussi la nature humaine qui veut le faire le plus rapidement possible. S'il n'y a pas de classement, il y a toujours un mec qui va vouloir aller à bloc. Ça, c'est la nature humaine.
Voilà, pour ma part, en tout cas, je pense qu'il faudrait que ce soit plus long encore pour retirer le classement. Voilà. 2600 km, ou bien les distances actuelles, en tout cas, pour pas rester focus sur la même épreuve, les distances actuelles... ne sont peut-être pas assez lunaires, je dirais, tout en restant mesurés, pour retirer la notion de classement. On peut encore déterminer une hiérarchie sur ça. Je sais pas, une épreuve... regarde le 2600 km de la Race Cross. Et pourquoi au sommet, pourquoi arriver au Touquet, on ferait pas demi-tour et on rentre? Ça fait 5002. Bon, bah là, en effet, tu mets pas de classement. Là, tu mets pas de classement. Là, c'est lunaire. Le Tour de France randonneur, ça existe. C'est une trace qu'on te fournit. Il y a pas de classement parce que c'est une distance. Ça aurait pas de sens de mettre un classement. Après, peut-être que les distances actuelles, au final, elles permettent encore, c'est vrai, t'as raison, en fait, on est un peu le cul entre deux chaises, quand même, quoi. Parce que on bascule pas non plus dans le foufou. Bien sûr que c'est fou. C'est passer 7 jours, entre 5 et 10 jours dehors, ou bien passer 48 heures, ou bien passer 24 heures suivant le niveau de chacun, c'est déjà hors norme. Mais c'est pas assez foufou pour dire un classement n'a pas de sens. Il est encore possible de hiérarchiser. Mais tu sais, c'est aussi pour ça que j'aime la course à pied et que en course à pied, il est possible, par exemple, de faire un GR, tu vois. Tu fais un GR, finalement, il n'y a pas de classement. Tu pars tout seul, tu fais ton aventure et on te demande... ton objectif n'est pas de faire le GR, c'est-à-dire de suivre un sentier de grande randonnée le plus rapidement possible. C'est juste de tenter une aventure. Quelqu'un qui escalade le Mont Blanc, qui fait un sommet, on va pas lui demander en combien de temps, il a monté le K2, quoi. Mais en vélo, on a encore un peu cette notion de, mais regarde Paris-Brest-Paris. Et on te parle encore de en combien de temps tu l'as fait, hein. Et il y a pas de classement, mais malgré tout, parce que Paris-Brest-Paris, au final, ils ont quand même retiré le classement. Enfin, personne ne gagne jamais Paris-Brest-Paris. Mais malgré tout,
Oui, mais il y a un temps. Comme il y a un temps, il y a forcément un premier et un dernier.
Bien sûr.
Quand on part tous en même temps, il y en a forcément qui arrivent plus vite. En tout cas.
Bien sûr. C'est la nature humaine, un peu, sans doute. Hein.
La nature, on est. L'humain est compétiteur, ouais, c'est ça, sans qu'on doute, le veuille ou non.
Ouais, sans doute.
Et tu vois, je reviens à Sylvain. D'ailleurs, faut absolument que je refasse un épisode avec lui. Et en fait, Sylvain, sur son épreuve, au bout d'un moment, il a supprimé le classement homme-femme. Il y a un classement des finishers.
D'accord.
Parce que statistiquement, il m'a dit, passer 400 kilomètres, faire un classement par genre, ça n'a plus aucun sens.
Mm-hmm.
Mm. Donc, ça serait aussi un truc, un truc super, super intéressant à faire, c'est de supprimer, d'arrêter avec le premier homme, la première femme, mm-hmm. et de dire, bah voilà, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ces personnes-là, c'est ces humains-là, plutôt que de réduire à un genre
mais sans,
qu'à partir d'une distance.
C'est pas assez long, pas assez dur, en fait. Et chacun, chacun y trouve aussi ce qu'il veut chercher, puisque tu as des gens qui jamais vont s'intéresser au classement, au final, hein. Tu as des gens qui donc
le classement, ça concerne qu'une minorité de personnes, hein. Il y en a aussi beaucoup, tu vois, sur la RAF ou sur les BTR, les machins. Il y en a qui veulent aller le plus vite possible, et quand on en a la possibilité et l'envie, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Mais il y en a qui n'en ont absolument rien à foutre de finir en 3 jours, 4 jours plus tard. Et à la limite, je me demande si c'est pas eux les plus heureux, parce que vouloir aller vite, etc., c'est quand même une pression et une préparation dantesque.
Mais c'est pas ce...
Alors que de faire ça à la cool...
Mais c'est pas ce qui te vient le premier en tête non plus. Tu vois, quand tu prends le départ, moi je prends le départ déjà, j'y vais pour finir déjà, pour le faire. Et 6 mois après, il en reste que tu as fait l'épreuve. Il est quand même rare de dire, la Race Cross France, à pied le Marathon des Sables, l'UTMB, t'as fait ou t'as pas fait, en fait. T'as fait l'UTMB? Ouais, j'ai fait l'UTMB. T'as fait l'UTMB? Ah ouais, et t'as mis combien de temps? C'est rare, quand même, ça. Ou t'as fait combien d'UTMB? Je suis incapable de te donner ma place à l'UTMB, hein. Le tour du Mont Blanc à pied, mais incapable.
La place, ça veut rien dire.
Et la Race Cross France, j'ai fini 6e. J'étais avec un copain, parce que bon, ce genre d'épreuve-là est belle aussi parce qu'elle est faite de rencontres qu'il faut provoquer parfois aussi. Mais j'ai rencontré un Breton adorable qui s'appelle Florian Vibou et bon, bref, on s'est apprécié mutuellement et on était ensemble et puis. Moi, j'étais cuit. Je lui dis, écoute, tu feras 5e. Moi, je vais faire 6e parce que j'en peux plus. T'es vraiment plus fort. Attends-moi parce qu'autrement, je vais vraiment être dans la panade. Et 6 mois après, ma place de 6e, parfois, je l'occulte. Parfois, il faut que je réfléchisse un quart de seconde pour me dire, ah oui, c'est vrai, c'est 6e que tu as fait. Non, j'ai fait la Race Cross France, en fait. Je pense que chacun vient aussi puiser ce qu'il veut. Tu as des personnes qui mettent toute leur énergie dans le résultat et d'autres pas du tout. Donc peut-être aussi que le fait d'établir une hiérarchie permet d'élargir le panel de participants. en fait, sans gêner ni l'un ni l'autre en fait. Celui qui vise pas le classement, celui qui le vise ne le gêne pas, et celui qui vise le classement, celui qui le vise pas n'est pas gênant pour lui non plus. Donc ça permet sans doute aussi de contenter ou de réjouir du moins tout le monde. Mais le risque, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est vraiment qu'on tombe un peu trop dans la compétition et que
oui, tout ce que ça comporte.
Exactement, voilà, c'est ça. C'est exactement le bon terme, c'est ça. Et tout ce que ça comporte de voilà, tout ce que ça comporte. Ça c'est ça faudrait pas. Et sans doute que
qui est déjà là hein, faut pas qui est déjà là sur certaines épreuves, je t'en avais parlé la dernière fois. Il y a des épreuves dont le classement a été annulé parce que voilà.
Non mais attends, j'ai entendu.
Mais ça aussi, ça fait partie de la nature humaine, hein. Que ce soit sur une course pro, une course UFOLEP pour gagner un camembert.
Non mais Richard, quand t'entends.
Quand on dit il y a pas d'argent, c'est pas surtout dans nos années là 2021, c'est complètement ça n'a aucun sens de dire.
Non mais c'est de la reconnaissance.
C'est contre se doper parce qu'il y a pas
c'est
d'argent.
De la reconnaissance.
Si, il y a de l'argent, il y a de la reconnaissance, il y a.
Non mais l'argent en plus tu la mesures pas toi parce qu'en fait il y a pas d'argent certes à l'épreuve, mais en fait derrière le coureur il a une vie, il a peut-être même des partenaires, il a des situations qu'il peut provoquer in fine pour lui rapporter de l'argent. Donc toi tu connais pas toi ce truc là. Donc je te rejoins, mais j'ai appris l'année dernière voilà que sur une épreuve du trente distance, t'as un mec qui a pris le train quoi. Il a pris le train.
C'est franchement
entre deux pointages.
Les Armstrong et Froome avec leur suspicion de vélo mécanique ou Fabian Cancellara, les mecs, mais prenez une leçon
non,
par ce gars, prendre le train,
non,
c'est
mais,
bien mieux.
Mais t'imagines le mec dans la tête du mec. Mais dans la tête du mec, le mec qui prend un ticket de train, quoi. Prend un ticket de train, il a un dossard dans le dos.
Les mecs qui font le marathon de Paris et qui coupent en métro, tu crois que c'est mieux?
Ouais. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Ouais.
Et il y en a eu combien des histoires comme ça de mecs qui coupent, etc. Bah tiens, on va pas revenir sur la nature humaine, mais que ce soit l'envie d'aller plus vite que son voisin, la tentation de prendre des trucs parce qu'on va plus vite ou on a moins mal, bah déjà ça remonte à l'Antiquité. Et puis tricher pour la gloriole ou pour
c'est la vie hein.
Ça fait partie de la nature humaine hein.
C'est la vie.
Quand on me dit lui il peut pas se doper, je le connais, c'est un mec super sympa. Mais ça a rien à voir. On peut être un connard fini et être clean. On peut être super sympa. Richard Virenque, il est super sympa.
Ouais, bien sûr. Ouais. C'est la
ça a rien vie à voir.
Ouais, bien sûr. C'est la vie.
Bon, tu vas faire quoi cette année?
Alors cette année, bon déjà, il y aura vélo et il y aura course à pied parce que pas question pour moi de supprimer la course à pied et je vais retomber dans quelque chose que je t'ai déjà dit, c'est que j'ai pas envie de faire un peu comme tout le monde, donc je veux viser du longue distance à pied et à vélo, donc à pied déjà. L'ultra trail du Mont Blanc, j'ai la chance d'être qualifié cette année, donc ça je le fais et ce sera fin août, c'est-à-dire un mois après la fin de la Race Cross France auquel je participe. Ouais. Donc déjà doublé Race Cross France et UTMB, bon ça sort un peu des modèles standards, et une semaine avant la Race Cross France, donc je participe à une épreuve de 208 km à pied qui s'appelle l'U2B. Et donc l'épreuve va se terminer le dimanche dans les Vosges, avec tous les cols vosgiens escaladés par les voies routières. Donc grand ballon, petit ballon, etc. Et donc ça se termine le dimanche. Et le vendredi, je prends le départ de la Race Cross France à vélo. Donc voilà, c'est un peu ça sort un peu des modèles standards, mais c'est ce que j'aime. Et je veux pas changer ça en fait. Voilà, je ne veux pas changer ça, même si ça me fait perdre deux places au classement final sur la Race Cross parce que je pars et que j'ai les cuisses encore qui sont toutes dures. C'est pas grave, je veux pas changer ça en fait. J'ai envie de croquer tout ce que je peux prendre en fait. Je veux vivre. Je veux vivre et ce que je vis à pied n'est pas remplaçable avec ce que je vis à vélo et réciproquement. Ce ne sont pas les mêmes émotions, les mêmes quêtes même. Et les mêmes douleurs, les mêmes émotions, c'est pas pareil. Donc ça, je veux pas. Donc j'ai la chance de faire les deux, je bougerai pas. Donc l'UDB, et puis j'espère pouvoir participer au raid de l'Archange, qui est une épreuve de 300 km à pied sur la côte du Cotentin en Normandie, donc en autonomie totale en fait. Pareil, départ du Mont-Saint-Michel le jeudi et arriver quand on peut sur un temps limite, je sais plus combien. Bref, il y a 300 km en autonomie totale et sans assistance. Et puis je participe à quelques Gravelman, j'ai participé à quelques Gravelman cher à Steven Le Yarrick, l'organisateur. J'ai adoré l'état d'esprit. J'adore le bonhomme. J'ai adoré l'état d'esprit. J'ai adoré les rencontres que j'y ai fait, etc. Et donc.
Mais oui, c'est vrai que t'as fait le premier en janvier sur la route.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Sous la neige.
Voilà.
Ouais, sous la neige.
Ouais, c'est ça. J'ai adoré. Et donc, je participe aussi à quelques gravelman. Et puis pas mal d'épreuves.
Uniquement route, toujours.
Oui, uniquement route. Ouais, c'est ça. Uniquement route, mais
pourquoi tu vas pas dans les chemins un peu?
Mais peut-être que en fait, peut-être que je vais essayer de faire le tour du Mont Blanc en gravel au mois d'août. Et ce serait une semaine avant.
Tu feras deuxième, hein, je te préviens.
Pardon. Ah ouais, je sais.
je gagne, podcast, celle-là. C'est écrit.
J'ai entendu. Hein.
Oh, là là, incroyable. Ouais, génial. Ouais, on fera la route ensemble. Donc, on va se prendre la gueule.
J'aimerais peut-être le faire parce que c'est 6 jours avant l'UTMB. Et donc, ça me permettrait peut-être en une semaine d'avoir fait le tour du Mont Blanc et en gravel et à pied. Ce qui serait formidable pour moi. Et donc, peut-être je vais essayer de faire ça. Donc, en fait, une conjugaison un peu permanente à l'année. De vélo et de course à pied sur des épreuves ultra longue distance avec une notion d'être une envie d'être performant, mais le critère de réussite n'est pas forcément le résultat en tant que tel, la place, voilà. Réussir certaines épreuves, ce sera peut-être juste aller au bout, et pour certaines même essayer d'aller le plus loin possible. Donc voilà, et pour ce faire, il y a pas le choix, faut s'entraîner beaucoup. Faut s'entraîner beaucoup, en fait, il y a pas.
On en revient au début de l'épisode. Et donc, faut s'entraîner quand on a un boulot la nuit et des attentes élevées, il faut s'entraîner.
Faut s'entraîner beaucoup. On me dit hier, un collègue du boulot m'a dit, mais en fait, t'as une maladie, toi, t'es addict au sport. Je dis non, je suis pas addict au sport. C'est juste que quand tu veux préparer un objectif, une aventure, et à un moment, il y a pas à tortiller, tu sors pas du chapeau. 205 km à pied fin avril. Non, ça c'est pas vrai. Tu sors pas un gravelman 350 km en Belgique comme ça du chapeau. Et j'ai beau avoir été coureur cycliste professionnel et j'ai beau avoir ceci cela peut-être comme aptitude, ça le fait pas en fait, faut s'entraîner, il y a pas à tortiller. Je le dis à mes enfants, hein, tu sais, à l'école. Des fois je dis à ma fille pourquoi il faut que tu travailles le soir quand tu rentres à la maison? C'est qu'il faut que tu t'entraînes. Je lui dis, tu crois que je fais quoi, moi? Si tu t'arrives juste sur les compétitions, ou si tu révises juste la veille de ton contrôle, c'est comme si moi, la veille de la compétition, le samedi, j'allais faire 4 heures. C'est trop tard, en vérité. C'est trop tard. Donc, c'est vrai que parfois, c'est compliqué. C'est vrai que c'est contraignant. Et surtout, à nos âges et avec nos contraintes professionnelles, ça nécessite une gymnastique permanente. Une gymnastique permanente, et c'est vrai, hein, je pense que toi, c'est pareil. En permanence, on a un emploi du temps dans la tête entre le métier, la famille, etc. etc. Et si je peux me permettre une petite aparté, et je pense que beaucoup se reconnaîtront, c'est qu'il faut bien reconnaître qu'il faut une vie familiale hors pair. Hors pair. La famille, notre épouse, notre femme, il faut notre compagne, peu importe notre situation, mais il faut quand même un sens de l'adaptabilité un peu hors norme si on veut durer. Et ça, sans une famille qui se passionne à minima pour notre pratique, on peut pas y arriver. Après, tu peux faire le beau, hein, et dire je suis ceci, je suis cela. En vérité, c'est que malgré tout, regarde bien, on t'accorde quand même beaucoup de facilité. Moi, je m'en rends compte. Moi, je suis déchargé à la maison d'un certain nombre de choses. Quand je dis déchargé, dans le sens où c'est ma femme qui le fait, bien sûr. Je le reconnais. Je le reconnais. Je suis pas un grand professionnel des des papiers, de trucs, des je sais pas, des factures ou peu importe, des travaux un peu, des suivis de travaux à la maison. Voilà, moi je te le dis, ça fait 2 ans que j'ai pas tondu la pelouse à la maison. Bah, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte. Et, bon, elle aime ça, d'accord, elle aime
mais
ça.
Mais tu fais autre chose peut-être.
Voilà, mais parce que je fais autre chose en fait. Ouais. Exactement. Mais l'équilibre, il est là dans la vie. C'est d'apporter autre chose. Et elle me dit, tu fais pas ça. T'es même un bourricot. Parce que moi, en bricolage, je te dis, je suis un bourricot. Hein. Je suis un bourricot. Je sais pas faire et je m'en fous. En fait, et même plus loin encore, je m'en fous. Mais je suis un bourricot. Mais par contre, j'apporte autre chose. J'apporte un partage. Je partage tout ce que je fais. J'essaie de le partager avec eux. J'essaie de partager ma pratique. J'essaie de partager mes défis. J'essaie de faire en sorte qu'ils se sentent intégrés au projet. On s'investit dans des causes. On est investi avec les Restos du Cœur, avec Ella, qui lutte contre les maladies de leucodystrophie. On est associé moi je fais avec un ami, on fait des maraudes à Paris. On est investi dans le don du sang. On est investi dans un certain nombre de causes avec la famille. Tous ensemble, ça, c'est notre partage. Et ma pratique à moi, on la partage tous ensemble. Donc, en fait, c'est pas égoïste, parce que parfois, on va me dire, ouais, c'est égoïste. En soi, bien, un peu, parce que te lever à 5 heures et faire 4 heures de vélo, c'est égoïste. Dans le sens où tu pourrais peut-être faire des choses avec ta famille le matin et t'es parti faire du vélo. Mais non, je me sens pas égoïste parce que je partage les choses. Je suis tout sauf quelqu'un qui fait dans mon coin et qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. Je ne fais pas ça. Mais je reconnais que sans une famille, on peut pas.
Tu pourrais partir faire tes 4 heures à 9 heures du mat au lieu de te lever à 4 heures ou 5 heures, parce que si tu fais 3-4 heures, eh ben à 8 heures t'es de retour, et on fait pas à 7 heures, 8 heures on fait pas grand chose de dingue avec les enfants. Et
tu as tout à fait raison.
Bon, après tu peux faire des trucs dingues avec ta femme dans la chambre, mais
mais
si t'es du matin, tu fais comme tu veux, mais ça peut être un entraînement, tu mets ta frontale et tout, et hop.
Tu as tout à fait raison, et c'est aussi pour ça que parfois, je trouve que la sortie, le rituel de la sortie longue du dimanche matin en cyclisme a un côté un peu toxique pour la famille. Parce que tu rentres, tu rentres à 12-13 heures, tu mets les pieds sous la table, machin. C'est sans doute une composante pour pouvoir continuer à s'exprimer les années passant. C'est pouvoir conjuguer avec la famille. Alors ça ne veut pas dire de réduire sa pratique, parce que je pense pas que ce soit mon cas, pas du tout même. Mais en tout cas, il faut savoir s'adapter et repérer un peu certains marqueurs, tu vois, certains marqueurs. Marqueurs qui te font dire bon, à un moment ça prend un peu trop le pas aussi, quoi, voilà. Mais ça, c'est je remarque moi dans la famille, je remarque par exemple ma femme, si je vois qu'à un moment elle est je la sens un peu plus débordée, peut-être même un peu plus irritable même, pourquoi pas, c'est que je me dis à un moment ça prend trop le pas là, ton histoire. Alors ça veut pas dire réduit, parce que jamais elle me dira ça, mais je me dis merde, comment je peux faire autrement, peut-être que je peux faire comme ci, comme ça, peut-être que je peux faire un truc ensemble, je vais proposer quelque chose, mais faut faire quelque chose, parce que faut reconnaître qu'on est le sport cycliste comme le sport comme la course à pied, hein. Ça prend quand même beaucoup de temps, quand on rentre on est défonce, donc bien souvent on n'est quand même pas les rois du pétrole quand tu rentres, hein. Tu rentres, t'es quand même un peu déchigné sur certains entraînements ou certaines épreuves. On demande quand même beaucoup à nos familles. On demande beaucoup à nos familles. Et je parle même pas de l'aspect financier. Tu vois, à la limite, même je l'occulte complètement. Parce que l'aspect financier, on pourrait en parler quand même. Maman, dans le budget de la famille, le vélo, on peut en parler quand même. Hein. Voilà, donc ça a un coût quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut. Bon, voilà, il faut savoir après, afin d'adapter sa vie ou trouver des niches pour pouvoir mieux conjuguer tout ça. Moi, c'est mon cas, hein. Donc d'ailleurs, je suis très très heureux avec tout ça. Enfin, j'ai une chance de dingue dont on se rend compte parfois mieux quand on prend un peu de hauteur, pas de distance, mais de hauteur, pour mieux se rendre compte de la chance qu'on a de vivre comme ça. Mais bien sûr que qu'on demande beaucoup de sacrifices à notre entourage. Et ça, il faut savoir s'en rendre compte pour pouvoir.
C'est un moteur, hein.
Pouvoir faire.
C'est un moteur, hein. Tu vois, sur des épreuves quand ça va pas.
Ouais.
Quand il arrive un petit truc, c'est aussi un moteur de se dire bon, t'arrêtes de faire de où on se dit, enfin moi en tout cas je me le dis, t'arrêtes de faire chier, tu roules parce que bah pendant ce temps-là t'es parti un week-end et t'es pas avec tes enfants et quand tu pars, quand tu roules la journée, que le soir t'es fatigué, t'es peut-être pas aussi marrant que quand tu roules pas et que t'es en pleine forme. Donc c'est aussi une forme de respect pour eux, c'est que bah on part, on fait des trucs, on n'est pas toujours en super forme, un peu fatigué. Et ben bah, sur une épreuve, quand ça va, bah c'est aussi grâce à eux. Et quand ça va pas, bah il faut finir se déglinguer autant qu'on peut pour eux et la petite récompense entre guillemets. Enfin, voilà, des derniers trucs que j'ai fait, le meilleur souvenir, c'est pas de dire j'ai fait tel truc en tel temps où bah il y avait pas de classement, mais j'étais arrivé parmi les premiers. Et c'est de rentrer à la maison et que ma femme me dit mais t'as fait quoi aujourd'hui? Bah j'ai roulé 8 heures. Tu le sais bien quand même. Et puis t'as pas l'air fatigué. Bah non, enfin un petit peu, tu vois, j'ai fait mon truc, il pleuvait et tout, j'ai roulé 8 heures, mais je suis pas explosé quoi. Donc c'est aussi ça un petit peu, tu vois, c'est de rentrer et de pouvoir m'occuper des enfants et de rigoler, de faire l'idiot comme si quasiment de rien n'était, alors qu'en fait j'avais roulé 8 heures avant.
Je suis tout à fait d'accord. Et alors on peut considérer qu'on accorde beaucoup de temps à ce sujet-là. Mais je te rejoins.
Il est fondamental.
Il est moteur.
C'est le plus important.
Il est fondamental, fondamental. Mais à un point, tu devines même. On se rend même pas compte en fait à quel point. À quel. Mais bien sûr.
On s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas d'enfants.
Ouais.
Et quand on les a, devient. Le reste devient pas secondaire, mais carrément secondaire.
Ouais.
Carrément secondaire, ça n'a.
Ouais.
C'est bien de le faire, mais honnêtement, si je devais choisir, je choisirais pas de toute façon. Eric, on va devoir s'arrêter, et comme j'adore les citations, est-ce que t'as vu le film Le Parrain?
Oh non, alors attends, Richard.
T'as pas vu Le Parrain? Mais t'es une trop nulle.
Je vais te faire un aveu avant que tu me raccroches au nez. Je suis nul.
Mais c'est quasiment sûr.
Je suis nul dans les films et ma filmographie, c'est ça on dit? Ma filmographie s'arrête à La Septième Compagnie. Les Bronzés.
Ouais, ça va.
Le vélo de Guylain Lambert. Voilà, c'est tout. Le reste, suis nul. Vas-y.
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Le Parrain, dans la première scène, quasiment la première scène où Don Corleone écoute un mec qui vient se plaindre, il lui dit un homme qui ne prend pas soin de sa famille ne deviendra jamais un homme.
Ouais.
Et là, on parle, tu vois, d'une scène où. Le mec vient se plaindre parce que sa fille a été brutalisée et violée par des gangsters qui n'ont pas été punis par la police puis par la justice. Et il vient demander aide et protection à Don Corleone. Le mec va envoyer une bande de Rital pour faire la fête aux mecs qui ont fait du mal à la fille.
Ouais. Ouais, c'est mieux se rendre compte encore de l'importance qu'on a d'être. D'avoir une famille. Qui comprend, qui ne juge pas forcément et qui te laisse être soi, parce que dans la famille c'est bien une famille, enfin c'est bien, le mot est même pas, il est usurpé, mais je veux dire par là que être soi-même dans la vie, c'est une chance incroyable si tu peux l'être, et tu vois ce que je veux dire. Et moi je suis moi-même en fait. Parfois, j'ai besoin d'être seul. Parfois, moi, j'adore écouter la musique. Par exemple, je suis pas du tout télé. Eh ben, j'écoute la musique et je chante et j'agite les bras et je bouge les bras et on respecte ça. En fait, je suis moi en fait, et ne pas tomber dans un standard, dans un modèle standard de papa qui promène la poussette le samedi après-midi dans la rue commerçante. Eh ben, c'est bien en fait. C'est pouvoir rester soi-même. Je pense que dans la vie.
Si on aime le faire, en tout cas, tant mieux.
Ouais.
Moi, j'aime bien.
Une chance, ouais.
C'est cool, franchement. T'écoutes quoi? Hey, on va finir là-dessus. T'écoutes quoi comme musique?
Alors, j'écoute un peu tout, quand même. Je peux pas dire que j'ai une chanteuse préférée. C'est Zazie.
Voilà. Céline Dion.
Zazie, là.
Non, mais je sais pas, t'as le droit, attends, c'est.
Non, je la laisse pour ton québécois, là.
Et, Moi, j'ai rien contre Céline Dion. Hein. Si on me disait demain, t'arrêtes d'être Richard Delhomme mais tu fais la carrière de Céline Dion, mais je te promets, je dis oui. Évidemment.
Non, Zazie, ouais. Ouais, Zazie, Zazie, ouais. Mais parce que dans les chansons, ce que j'aime, c'est les textes. Et les textes de Zazie me parlent beaucoup. Voilà, il y a une chanson qui s'appelle Si j'étais moi, par exemple, que j'invite les gens à lire le texte. Et il y a une chanson aussi d'elle qui s'appelle Être et avoir. Voilà. Et moi, je préfère, comme je dis, parfois, je préfère l'auxiliaire être à l'auxiliaire avoir, parce que je préfère être. Qu'avoir quelque chose, avoir ceci, avoir cela, je sais pas, voilà. Donc j'aime bien les chansons, mais j'aime bien les chansons à texte. Après, après je suis capable de chanter sur les sardines, hein, mais voilà quoi.
Ouais, ou comment mince. René Lataupe, par exemple.
mais je préfère les chansons à texte. Voilà,
j'adore René Lataupe.
J'aime bien Renaud.
Quand
aussi,
j'ai envie de rigoler un petit peu et de faire l'idiot.
Bien sûr. Voilà. J'aimais bien Renaud aussi.
C'est horrible en plus. Ouais.
Mais j'aime bien chanter.
Bon, mon petit lapin, je vais te laisser là-dessus. Et je vais te laisser pour la minute de solitude, puisque visiblement tu écoutes, tu sais de quoi il en retourne. Donc je vais poser mon micro. Et mon petit Eric, merci. Et on se verra bientôt. Vraiment, il faut qu'on aille faire un truc ensemble.
Ah ouais, avec plaisir, bien sûr.
Justement, on se verra au Mont Blanc, donc c'est déjà pas si mal. C'est parti pour ta minute de solitude.
Attends, c'est quoi la minute de solitude? C'est tu poses le micro là?
Moi je pose mon micro, je me barre, ouais, et puis toi tu dis ce que tu veux, t'as encore plein de trucs à dire.
Et ça fait une minute pile. Ouais, c'est ça. Hein.
Bah
ouais.
Non, ça peut faire moins, ça peut
d'accord.
faire plus.
Ah ouais,
il y a des gens qui n'ont pas respecté ça.
D'accord.
Il y en a qui ont mimé un bruit de chaîne, d'autres qui ont simulé d'être sur le Rome Trainer. Tu fais ce que tu veux, c'est ça la liberté.
D'accord. Ouais.
Si tu veux transgresser ou être créatif, eh ben vas-y, je t'y encourage.
D'accord.
Allez, gros bisous. À bientôt.
Bisous Richard, t'es super. Il est parti. Bon, bah me voilà avec vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que je suis bien content d'avoir fait ce petit rendez-vous là. C'était très bien de pouvoir échanger comme ça ensemble. Et je pense que dans la vie, messieurs, dames, le plus important c'est de savoir s'adapter, d'aimer les gens et de partager. Voilà, ça c'est important. Et puis après, de les gars, faut rire, faut vous marrer, faut être un peu foufou. Tu vois le côté un peu foufou, il faut faire ça. Je vais te raconter une petite anecdote. L'année dernière, je fais une course. Je vais vous raconter deux anecdotes. Première anecdote, course de 205 km à pied l'année dernière. Bon, je vais être grossier, on s'en fout. Il est plus là, le chef. Donc, et après 100 km, j'avais envie de... voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'avais envie de chier. Le problème, c'est que j'avais pas de papier de toilette. J'avais rien emmené. J'étais en pleine compétition. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté sur le bas-côté et voilà, et du coup je me suis essuyé avec mon t-shirt, mais du coup j'ai remis mon t-shirt et donc j'ai poursuivi jusqu'au premier prochain ravitaillement. Il y avait 40 km à faire et voilà, j'ai porté mon t-shirt qui était sale. et l'autre truc, c'est une fois une course, j'étais avec Corbeil-Essonne et pareil, épidémie de gastro à l'hôtel. Bah, 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 bah. Nous aussi, bon, le ventre, il commençait un peu à gargouiller. Bon, pas grave, on y va. On avait des cuissards vert fluo, je précise. Bim, je me trouve dans l'échappée. Bam, 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 bam. Bah, super, j'étais en échappée. Et le vent, bam, 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 ça gargouillait. Ouh, à un moment. Ah, j'ai dit, je peux pas, c'est... Bam! Qu'est-ce que je fais? J'avais la diarrhée. Je m'en mets partout sur le cuissard, ça tombait sur les mollets, tout ça, partout. Cuissard vert, il était devenu marron. J'ai fait toute la course comme ça, j'ai terminé dernier d'échappée, cinquième, je suis arrivé, le speaker, il me fait monter sur le podium pour le prix de la combativité. Mais nous, on n'était pas un grand club, j'avais pas de cuissard de rechange et tout ça. Je suis monté sur le podium avec mon cuissard marron. Ça s'appelle se chier dessus. Ça veut dire quoi, moralité? Ça veut dire que dans la vie, faut savoir s'adapter. Ça veut dire qu'il faut savoir en rire de tout, qu'il faut pas juger. Et ça veut dire qu'on s'en fout, en fait, tu vois. Je m'en fous, quoi. Je m'en foutais. J'ai pas honte de ça. Voilà. Je m'en foutais et c'est les plus gênés qui sont partis. Et cette anecdote-là, je la raconte souvent pour dire aussi à mes enfants qu'il faut savoir s'adapter et faut pas hésiter à, parfois, à se chier dessus, quoi. Voilà. C'est tout. Hein. Je vais pas vous en raconter d'autres, hein. Autrement, je peux vous en raconter plein d'autres, hein. Bon. Parce que j'ai bien parlé, en plus. J'ai bien parlé, j'ai bien chanté. Donc, voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais un bisou et merci à Richard et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté le podcast. Bisous. Allez, bisous, il n'est pas parti. Hein. Bisous, bisous. Richard? Il n'est pas là, parti. La camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans le trou de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicile. J'aime bien Georges Brassens, hein. Alors je peux te faire la chanson. Hein. Bah, c'est tout. Hein. Richard, j'ai besoin de toi là, parce que... Faut que j'y aille.
T'es là, Eric?
Ah ouais, je suis là.
Ah, putain, mais les mecs... Eh, mais vous parlez, hein, vous êtes des vrais pipelettes. Toi, Steven, les autres. Ah, mais les mecs, quand on vous dit une minute. Non, mais une minute. Qu'est-ce qu'on fait
en
une
minute?
Qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, ça, c'était un sketch. Qu'est-ce qu'on fait en une minute? Putain, ouais. Ça peut être long, hein, quand on s'y prend mal.
Mais j'ai tout fait.
Bon, bah, génial.
J'ai tout dit, là. J'ai tout dit.
Bon, bah écoute.
Merci, c'était super.